Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Bonjour et bienvenue dans Apolline Matin. Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes le vendredi 14 août avec toute l'équipe. Autour de moi, Pierre Rondeau, notre économiste, Victor Pourchet, journaliste RMC, Charlène Villemer pour la météo. Et nous sommes surtout avec vous, vous le savez, au 32-16 sur le WhatsApp d'RMC au 06-12-424-424. À 7h10, nous serons avec Xavier Bois, c'est le président de la Fédération syndicale du SPP-PATS, syndicat de sapeurs-pompiers. Les pompiers vont debout contre le gouvernement et le manque de moyens. À 7h40, le week-end du 15 août, vous allez être nombreux sur la route. S'il fait très chaud, la mécanique va souffrir. Bernard Darniche, l'ancien pilote de rallye, répondra à toutes vos questions. Comme un air de JO également, les championnats d'Europe de natation et les Français au top. Sophie Camoun, consultante natation d'RMC, sera avec nous à 8h10. Et puis à 8h45, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, sera mon invité. Une sécheresse inédite des agriculteurs qui se disent au bord du gouffre. Mais jusqu'où et jusqu'à quand les aider? Ce sera à 8h45. Dans un instant, le journal, mais avant tout la météo. Charlène Villemer, on parlait de sécheresse et les conditions météo n'arrangent rien. Toujours la canicule.
Oui, dans 75 départements, toujours en vigilance orange aujourd'hui. 41 départements restent, eux, en risque élevé. Feu de forêt, une nouvelle journée donc ensoleillée. 26 degrés à Bourges ce matin, c'est un record en ce mois d'août. La carte sera encore rouge cet après-midi. 39 degrés dans une grande majorité du pays. À Lyon, à Nancy, à Paris ou encore à Montauban. 40 degrés pour Montélimar ou encore Nevers. Ça baisse encore à Brest, 25 degrés et près de la Manche, 25 également du côté de Cherbourg. Alors ce matin, au niveau du ciel, on a quelques grisailles qui traînent près de la pointe bretonne et puis des orages qui arrivent cet après-midi, notamment près du Poitou-Charentes jusqu'au Pays de la Loire. Il pourrait arriver également en Île-de-France d'ici ce soir. Le week-end ne sera plus caniculaire, mais il va rester quand même chaud, proche des 35 degrés, les baisses de température. Ça sera pour mercredi prochain.
Merci Charlène, RMC, 6h59.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gavillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Les pompiers à pied d'œuvre dans les Landes. Un nouvel incendie s'est déclaré hier soir. 600 hectares partis en fumée au nord-est de Mont-de-Marsan. 500 personnes évacuées. Le site des impôts piraté. Les données de 700 000 contribuables potentiellement concernés. On va tout vous expliquer. Et puis un champion du monde 98 pour encadrer les gardiens des Bleus. Zizou a choisi Fabien Barthez pour l'épauler.
Les flammes de retour dans le sud-ouest, Clara.
Les Landes à nouveau victimes d'un incendie. 600 hectares brûlés depuis hier au niveau de la commune de Luglon. C'est au nord-est de Mont-de-Marsan. 500 personnes évacuées hier soir. Angie Louata à Luglon pour RMC. Quelle est la situation après la nuit?
Et ce matin, près de la mairie de Luglon, l'air est toujours chargé de cendres. On est au poste de commandement des pompiers installés tout près. Beaucoup de concentration, des va-et-vient, des véhicules en permanence mobilisés. On sent qu'ils ont vécu une nuit de combat contre les flammes assez intense. Le feu a probablement progressé hier et en fin de soirée dépassé les 600 hectares parcourus. Mais la nuit a permis de le contenir par endroits et notamment grâce à l'aide précieuse d'agriculteurs et de leurs réserves d'eau. La lutte est toujours en cours et la préfecture devrait à nouveau communiquer dans la matinée.
Les toutes dernières précisions avec Angie Louata dans les Landes pour RMC. Un feu parti très vite hier, poussé par des vents changeants. Cyril a dû quitter sa maison de Luglon avec beaucoup d'appréhension.
Quand on a quitté, nous, notre domicile, il y avait beaucoup de fumée sur la commune. Le feu se situait à 150 mètres de chez nous et on voit ce panache de fumée intense derrière notre maison. On est incapable de vous dire si le feu est passé de l'autre côté de la route et a touché nos maisons ou pas. Une maison, c'est toute une vie, ce qui fait qu'on est forcément sensible déjà à ça. On s'inquiète pour nos biens, on se préoccupe de nos animaux qui sont restés sur place. On a des moutons, mais bon, pas de possibilité d'évacuation, ce qui fait qu'on a dû laisser les moutons. On a nos chats, mais malheureusement, un sentiment d'impuissance, c'est assez triste.
Cyril, un habitant de Luglon qui fait donc partie de ces 500 personnes évacuées. Des incendies dans le Pas-de-Calais également qui sont contenus aujourd'hui. Il est fixé en revanche à Guérande le feu de végétation à l'ouest de Nantes qui a contraint 2000 campeurs à évacuer. Le mois dernier en Gironde, deux pompiers étaient morts près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, pris au piège par les flammes dans leur camion. Un adolescent de 15 ans est mis en examen aujourd'hui dans cette enquête, interpellé avec son frère de 22 ans, frère aîné, qui l'a disculpé pendant sa garde à vue. L'adolescent a été placé en centre éducatif fermé.
Les sapeurs-pompiers qui appellent à manifester le 29 septembre.
Leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur n'a pas calmé leur colère. 9 syndicats venus demander plus de moyens se disent très déçus de l'absence de réponse concrète. Malgré donc ces annonces de Laurent Nunez, un projet de loi de modernisation de la sécurité civile présenté début septembre et l'augmentation du budget des services départementaux d'incendie et de secours, annonce défendue par le ministre après la rencontre.
Ça n'est pas rien que le gouvernement dépose effectivement un projet de loi. Ça n'est pas rien dans le contexte politique que nous connaissons. Et ça n'est pas rien que nous ayons acté le fait de travailler sur les ressources des services départementaux d'incendie et de secours. On m'a demandé de m'engager sur des chiffres. Évidemment, je ne le peux pas. Pour les moyens, nous devons aussi composer. Et c'est normal, c'est la libre administration des collectivités locales avec les élus. La partie qui nous concerne, je le redis, nous avons augmenté le budget de l'État de 10% cette année, de 93% si on prend la séquence des 10 dernières années. Voilà, pour la partie qui est la nôtre, on fait évidemment le job.
Et tout de suite après le journal, hein, aux alentours de 7h10, le porte-parole de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers, Xavier Bois, sera avec nous en direct.
Un été de tous les records sur le plan des incendies et des annulations de feux d'artifice en cascade. 75 départements en vigilance orange canicule. Aujourd'hui, la baisse des températures devrait s'amorcer demain, mais les conditions sont souvent trop dangereuses pour maintenir ces feux d'artifice du 15 août. De nombreuses communes les ont interdits, Anna Jojard.
Pas de feu d'artifice ce 15 août à Pertuis dans le Vaucluse.
On se dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir.
Aurélien Auclair est le maire de la commune.
Nous avons connu cet été là 4 incendies importants. Reporter un feu d'artifice, oui, ça coûte de l'argent, mais je pense que quand on voit les dégâts que le feu peut causer, le désarroi et la fatigue de nos pompiers, mais finalement on se dit que si on peut leur donner un petit coup de main et pas leur rajouter du travail, c'est du bon sens.
Et ce maire s'interroge sur l'avenir de ces feux d'artifice en été. Plus à l'ouest, dans l'Aude, les mairies de Fleury et Narbonne ont déjà tranché.
On change de saison. Pour les feux d'artifice, ils ne seront plus tirés l'été. C'est définitif.
Bertrand Malquier, le maire de Narbonne.
Chaque année, on annulait, on déplaçait les feux d'artifice et on avait toujours une épée d'Amoclès. On a choisi d'avoir deux nouvelles saisons, le printemps et l'hiver, qui seront plus favorables.
Un changement de saison auquel se préparent les artificiers. Jérôme Julien est gérant de la société Pyro Event en Isère.
On a déjà commencé, nous, lors de la signature des feux d'artifice, à prévoir de suite une date de report sur l'hiver, notamment. Vu les conditions météo qui s'aggravent, malheureusement, hein, je pense qu'on va être obligé de travailler comme ça.
Et sur les 80 feux d'artifice qu'il avait prévus cet été, il estime en avoir tiré seulement 10.
La sécheresse qui déstabilise la montagne. Un nouveau mort hier dans le massif du Mont Blanc. Un alpiniste de 31 ans tué par une chute de pierre. Des risques qui avaient poussé il y a quelques jours à la fermeture de deux refuges d'étape dans l'ascension du Mont Blanc. Du monde sur la route aujourd'hui, rouge dans le sud-est dans le sens des retours. Orange partout ailleurs dans le sens des départs. Cette orange pour ce même quart sud-est. Une grève chez EasyJet. 40 vols annulés demain, probablement autant dimanche, préviennent les syndicats d'hôtesses et de stewards qui demandent de meilleures conditions de travail. Grève aussi à la SNCF, un TER sur deux annulé aujourd'hui et ce week-end en direction de la Normandie.
Justement, si vous voulez réagir à ces grèves qui tombent en plein week-end du 15 août, notamment à la SNCF, vous nous appelez au 3216. Je sais que généralement, ça fait bien réagir. Attention aux arnaques après un piratage du site des impôts.
Le ministère de l'économie le confirme. Le site impots.gouv.fr a bien été victime d'une cyberattaque fin juin. Elle a été revendiquée avant-hier. Et Caroline Renaud, les données de centaines de milliers de contribuables sont potentiellement concernées.
Oui, le pirate y aurait eu accès grâce à une usurpation d'identité. Avant d'être expulsé des serveurs, il aurait ainsi dérobé les données de particuliers et de professionnels. Des noms, dates de naissance, identifiants fiscaux ou encore numéros de téléphone. Le ministère de l'économie ne précise pas le nombre de contribuables concernés, mais selon le site spécialisé French Bridges, ce sont les données de près de 700 000 personnes qui auraient été extraites et le fichier serait désormais en vente pour plusieurs milliers d'euros. Les usagers concernés seront bientôt contacter. Mais prudence, si vous recevez prochainement un appel prétendant venir des impôts, ne communiquez jamais vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires par téléphone.
La précision de Caroline Renaud. Au Royaume-Uni, Nigel Farage revendique sa victoire dans l'élection législative partielle de Clacton, qu'il avait lui-même convoquée, élection qui était boycottée par les partis traditionnels. Le chef du parti anti-immigration Reform UK faisait face à Count Beanface, candidat satirique avec une tête de poubelle.
Lui, il n'a pas choisi une tête de poubelle. Bien au contraire, pour s'épauler, le football, Zinedine Zidane a dévoilé son staff.
Oui, on s'y attendait. Le nouveau sélectionneur des Bleus a officialisé donc son équipe et il sera accompagné en adjoint de son fidèle David Bettoni. Et il aura également à ses côtés un ami de longue date, le champion du monde 98, Fabien Barthez. Il sera l'entraîneur des gardiens. Ce sera sa première expérience à temps plein dans ce métier, Valentin Jamin.
Oui, Fabien Barthez avait déjà conseillé les gardiens des Bleus, mais de manière ponctuelle à l'entraînement entre 2007 et 2012, puis ceux de Toulouse il y a 5 ans. Mais cette fois, son rôle est plus cadré et lui va bien, selon Lionel Charbonnier, troisième gardien des Bleus en 1998.
Je t'aurais pas dit qu'il avait l'âme d'un entraîneur, mais il a l'âme de la transmission. Ça, c'est dans ses gènes. Des mecs avec un énorme vécu sont écoutés, ce sont des pertes pour ces jeunes joueurs.
Faire parler son expérience, Barthez, champion du monde et d'Europe, a toujours dégagé de la simplicité, de la passion, sa décontraction a marqué les mémoires et alors qu'on demande toujours plus de qualité au portier, lui s'en plaignait dans le podcast La Voix des Gardiens.
Ce qui se passe en ce moment chez les gardiens, c'est une honte. Un gardien, c'est particulier, ça se vit de l'intérieur, c'est dans le ventre. Faut arrêter de faire des scientifiques, faut rester naturel.
Resté très proche de son coéquipier Zinedine Zidane depuis 30 ans, le vainqueur de la Ligue des Champions avec Marseille est en train de passer son brevet d'entraîneur et découvrira les gardiens des Bleus mi-septembre.
Lui raccroche. Florent Manaudou annonce mettre fin à sa carrière. Il n'avait plus nagé en compétition depuis les Jeux Olympiques de Paris. Il y a 2 ans, le nageur de 35 ans aura remporté durant sa carrière 36 médailles, dont 6 olympiques. Il l'a annoncé donc hier au championnat d'Europe de natation, où la France a d'ailleurs remporté 2 médailles d'argent hier sur le 100 mètres papillon et le 50 mètres d'eau. Ce matin, Léon Marchand s'élance en individuel sur le 200 mètres papillon. En Angleterre, au championnat d'Europe d'athlétisme, début aujourd'hui du saut à la perche masculin avec les qualifications et un grand favori, le recordman du monde, le Suédois Armand Duplantis. 3 Français sont engagés, dont les frères Collet, Mathieu et Thibault. Ils vont vivre leur premier grand championnat ensemble, Léna Marjac.
L'un est un habitué des grandes compétitions, Thibaut, 27 ans, 5e des derniers championnats du monde et championnats d'Europe. Et puis il y a Mathieu, l'aîné, 31 ans, qui lui vit sa première sélection en équipe de France.
C'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'expérience alors que j'en ai 4 de plus, quoi. C'est très facile de l'avoir avec moi en chambre parce que bon, il apporte des informations avant même que j'ai besoin de les demander, il anticipe aussi.
Et donc en plus de partager leur chambre d'hôtel, les frères Collet vont partager aujourd'hui le même sautoir pour les qualifications du saut à la perche, l'occasion pour Thibaut, le plus jeune, de conseiller son frère.
Je pouvoir l'aider si je sens qu'il a besoin qu'il temporise sur quelque chose. Quoi qu'il arrive, il y aura des échanges et des moments où on pourra s'aider mutuellement.
De l'entraide, oui, mais la compétition avant tout, pas de place aux affinités dans les moments importants pour Thibaut.
On a ce lien du sang qui fait quoi qu'il arrive, on s'aidera. Maintenant, s'il faut sauter plus haut, que ce soit lui ou moi, on le fera.
Sachant que leurs objectifs sont totalement différents. Mathieu Collet, l'aîné, vise une qualification en finale alors que son petit frère Thibaut a le podium dans un coin de la tête.
Ça fait 2 championnats que je fais 5e, je veux faire mieux. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Une 20aine de proches de Mathieu et Thibaut a fait le déplacement, dont Jacques, le grand-père, et bien sûr Philippe, le papa et entraîneur.
Épreuve à 11h30, les championnats d'Europe d'athlétisme qu'on vit ensemble sur RMC.
Merci beaucoup Clara, le prochain journal ce sera à 7h30. Vous êtes nombreux à réagir déjà sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Je crois savoir, Victor Porcher, que certains vont prendre la route.
Ah bah c'est ambiance chassée croisée sur le WhatsApp d'RMC. On a d'abord Sébastien qui nous dit: alors moi je partirai lundi en espérant avoir moins de monde sur la route et surtout en espérant moins galérer, notamment pour le stationnement. Et puis dans l'autre sens, il y a Ralph qui nous dit: dernier jour de congé pour moi, je me lève très tôt pour reprendre l'habitude, pas mal comme technique, et l'avantage que ça donne, c'est de vous écouter et d'être avec vous. Je signale qu'RMC, on peut l'écouter aussi en vacances, hein. Pas d'excuses, Ralph.
Tout le temps, on peut l'écouter tout le temps. Merci Victor Pourchet. Hier, ils étaient en grève en septembre, ils manifesteront à Paris. Les sapeurs-pompiers restent mobilisés, reçus hier par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ils sont ressortis très déçus, en colère, pas de chiffres, un calendrier flou sur la loi de modernisation de la sécurité civil. Les pompiers ne lâcheront rien. C'est le parti pris dans un instant de Xavier Bois, porte-parole de l'intersyndicale. A tout de suite sur RMC et sur RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h13. Ils étaient en grève hier. Ils seront dans la rue à nouveau en septembre. Les 9 syndicats de sapeurs-pompiers sont ressortis très déçus de leur rencontre hier avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ni chiffrage, ni stratégie de financement pour le projet de loi de modernisation de la sécurité civile promis à la rentrée. Effectif insuffisant, équipement vieillissant, un été noir au bilan humain terrible. 4 pompiers morts. Les pompiers ne lâcheront rien. C'est le parti pris ce matin de Xavier Bois. Il est le président de la Fédération Autonome SPP-PATS et porte-parole de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers. Il devrait être avec nous dans un instant, mais avant cela, Eric est avec nous au 32-16. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story. On est en Haute-Savoie, c'est ça Eric?
Oui.
Dans quel coin de la Haute-Savoie?
Autour d'Annecy.
Autour d'Annecy, très bien. Et vous voulez nous parler des sapeurs-pompiers parce que bah, vous êtes directement concerné, votre fils est sapeur-pompier, c'est ça?
Il l'a été.
Volontaire.
La famille a été volontaire. Ouais.
D'accord, la famille. Ah. Plus largement, parce la que famille. Vous-même, vous étiez sapeur-pompier?
Oui.
D'accord. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les revendications des sapeurs-pompiers?
Alors, on peut les comprendre à la fois sur le fait qu'il y a du manque de volontaires, mais comme j'ai dit à Clément depuis longtemps,
au standard, oui.
il y a un peu un conflit, mais il y a d'un côté les volontaires, d'un côté les professionnels, et je trouve que les volontaires, on a du mal à les intégrer du fait que tous les jeunes qui rentrent, on leur fait passer des examens sportifs intensifs, des formations intensives. Mais bon, voilà, le but des pompiers, c'est d'abord être volontaire, d'avoir des initiatives, mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir des super professionnels, quoi. C'est comme les équipes de foot, on n'a pas besoin de stars. Mmh. On a bien vu que le cumul de stars, c'est pas ce qui fait un collectif.
Ça, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que je l'ai pas encore entendu. Vous nous dites que, en fait, la formation de base des sapeurs-pompiers volontaires, elle est nécessaire, bien sûr, mais que peut-être que les tests sont trop durs et que ça décourage un certain nombre de candidats, c'est ça?
Arrivé à un moment, les JSP,
c'est JSPC.
Les jeunes sapeurs-pompiers, il y a plein de jeunes qui y vont. Mais à fortiori de leur faire faire du sport à haute intensité, faire des formations pour déjà faire un décalé, il faut qu'ils attendent au moins 3-4 mois pour arriver déjà à faire des premières interventions intéressantes. Je veux dire, alors bon, moi,
donc il y aurait un problème de formation, de sélection en tout cas.
De sélection et surtout de mise en avant au niveau des volontaires. Parce que on recherche trop la performance par rapport à la bonne volonté qui peut servir à tout moment. On le voit bien là avec les feux de forêt, le conflit entre les agriculteurs qui viennent aider et puis le commandement des sapeurs-pompiers, voire du préfet. Je trouve ça que c'était intolérable de voir que les gens du coin qui savent faire fonctionner des pompes à eau, des tuyaux, qui font ça toute la journée par leur métier, et qu'on leur dise non, vous nous gênez.
Oui, il faudrait plus de souplesse en fait, c'est ça.
Comme j'entends qu'il faut plus s'engager, moi dans les pour les feux de forêt en Gironde, dans le sud, il devrait y avoir une réserve de gens qui sont compétents parce qu'ils sont viticulteurs, ouais, agriculteurs, ouais, et puis qu'on fasse appel à eux, quoi.
Parce qu'il faut le rappeler, hier je voyais encore les chiffres, la France, d'un point de vue des effectifs, on est quand même pas mal doté en Europe, mais c'est vrai que c'est par le fait qu'il y ait plus de 200 000 volontaires, et en même temps, ce chiffre de 200 000 volontaires, il n'a pas évolué depuis plusieurs années, on stagne en fait.
Oui, c'est vous regardez la différence de recrutement et d'il y a 10 ans ou 15 ans, et puis maintenant, et puis vous apercevez un petit peu ce qui se passe. Je veux dire, j'ai été pompier volontaire, mais si on m'avait fait subir une telle pression que ça, je serais pas allé au bout, surtout dans les petits villages.
Voilà. C'est compris. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Eric, qui nous appelait depuis la Haute-Savoie, du côté d'Annecy. Ce sujet, en tout cas, on n'a pas fini d'en parler, puisque je vous le rappelle, hier, l'intersyndicale des sapeurs-pompiers a été reçue par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et qu'il n'y a pas d'objectifs chiffrés. Et les syndicats sont ressortis extrêmement déçus, voire même très en colère, très remontés après cette rencontre. Et ils appellent à nouveau à des manifestations en septembre. Xavier Bois est avec nous.
Bonjour
Xavier Bois, merci d'être avec nous, président de la Fédération Autonome SPP-PATS. Vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale qui a été reçu hier par Laurent Nunez. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Est-ce que, encore une fois, c'est ce que j'ai ressenti hier dans les prises de parole des syndicats, il y a de la colère, est-ce que vous avez ressenti une sorte de, je suis désolé, hein, le mot est fort, mais une sorte de mépris de la part de ceux qui dirigent le gouvernement?
Alors, j'emploierai pas le mot de mépris parce qu'on a quand même eu de l'écoute, une attention assez particulière du ministre parce qu'on l'a senti quand même assez conscient de la problématique, mais relativement démuni face à nos demandes parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas la main sur tous les sujets. Et il faut un gros courage politique pour prendre certaines décisions. Et là, on voit que le ministre de l'Intérieur n'est pas seul à la manœuvre.
En tout cas, ce qui est sûr, et ça, c'est votre parti pris ce matin, c'est que vous ne lâcherez rien. Vous n'allez pas baisser les bras, vous continuerez à rester mobilisé.
On va continuer à rester mobilisé. Vous savez, c'est un petit peu dans l'ADN des pompiers. Notre métier, c'est sauver ou périr. On s'engage jusqu'au bout, on ne baisse pas les bras. La seule chose qui peut nous faire baisser les bras, c'est quand on a le temps de prendre conscience qu'on va risquer notre vie. Mais là, on n'en est pas là, donc on n'est pas prêt de baisser les bras. On va rester mobilisé. On a perdu encore 4 collègues cet été. C'est un jour sans fin, en fait. Ça fait plus d'une décennie qu'on dénonce les problématiques, les dégradations de la sécurité civile. Aujourd'hui, on a franchi un cap avec l'été 2026, avec le changement, vraisemblablement le changement climatique qui va changer nos conditions de travail.
Oui.
Il faut vraiment que... C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on mette le coup, parce qu'on a beaucoup de retard qui a été accumulé. Et si on ne se met pas les moyens aujourd'hui, on n'y arrivera pas.
Vous dites que Laurent Nunez n'est pas à la manœuvre, mais alors qui est à la manœuvre?
Et en fait, les services incendie sont financés en grande partie par les départements et les collectivités, les mairies et les établissements publics. L'État contribue au financement des SDIS à hauteur de 5% environ. Donc en fait, quand on parle financement, quand on parle recrutement, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui recrute les sapeurs-pompiers professionnels dans le département. Et aujourd'hui, il n'y a aucun texte réglementaire qui oblige des départements à avoir des sapeurs-pompiers professionnels au sein de leur
collectif. Donc il faut mettre la pression sur les départements.
Il faut mettre la pression sur les départements. Nous, ce que le ministre a aussi sa part dans la partie, parce qu'il est quand même à la manette du réglementaire, et au niveau du réglementaire, en ce qui concerne nos équipements de protection, et même ce que je vous disais sur l'obligation d'avoir des professionnels dans des départements ou dans des centres de secours en fonction du nombre d'habitants à défendre, en fonction du nombre d'interventions à réaliser, on sait évaluer, quand vous avez une ambulance dans un centre de secours qui sort 10 heures sur 12 heures, il est évident qu'on ne peut pas faire fonctionner son propre corps avec des pompiers volontaires.
Bien sûr. Merci beaucoup, Xavier Bois, d'avoir été avec nous, président de la Fédération Autonome SPP-PATS, porte-parole de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers. Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, avec le succès intemporel des Lego. La petite brique est une énorme cache machine. Et en parlant de cash,
ma question préférée, c'est je vais perdre tout cet oseille, je vais perdre tout cet oseille.
Notre économiste est avec nous, c'est lui qui a choisi ce titre, Pierre, le succès de l'oseille, du cash, se dément pas.
Les commerçants l'adorent et même encore plus qu'avant.
Merci beaucoup, c'est dans un instant, Pierre, sur RMC et sur RMC Story, à tout de suite.
Je vais perdre tout cet oseille, ma question préférée, je vais perdre tout cet oseille.
RMC Apolline Matin.
RMC 7h23, Pierre Rondeau est donc avec nous.
RMC,
le chiffre du jour.
Pierre Rondeau, notre économiste, 92%, Pierre, 92% des commerces acceptent le paiement en liquide en 2026. C'est un chiffre qui est en hausse. Le cash fait de la résistance.
Oui, selon une étude de la Banque Centrale Européenne, 92% des commerces acceptent le paiement en cash, alors qu'il n'était que 90% en 2024. À cette époque, rappelez-vous, tout le monde prédisait la fin des pièces et des billets. Imaginez l'essor du paiement numérique avec le sans contact. On se rappelle encore de la période du Covid où on s'inquiétait de toucher les pièces c'est les billets et on préférait payer par carte, payer avec du sans contact. Aujourd'hui terminé, c'est le retour du cash.
Bon, ça m'étonne quand même parce que j'ai l'impression que tout le monde maintenant paie avec son téléphone.
C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens maintenant payer avec leur téléphone. Oui. C'est un mode de paiement qui a littéralement explosé puisqu'en l'espace de 2 ans, on est passé de 36% à 68% des commerces qui acceptent ce type de paiement. Mais ça reste encore derrière le liquide. Toujours le mode de paiement le plus accepté par les commerçants de la zone euro. Il résiste à la technologie, au numérique, au digital et continue à être largement accepté et plébiscité dans les magasins. Ils sont que sa part augmente même. C'est ce qui devrait assurer d'ailleurs la Banque Centrale Européenne puisqu'elle s'apprête à lancer d'ici 2028 les nouveaux billets euro dont le modèle doit être choisi directement par les citoyens européens. On aime les biftons, on continue d'aimer le cash. Puis, pour être parfaitement objectif, le paiement en liquide rassure, maintient une forme d'anonymat, de liberté, de protection de la vie privée. En payant en liquide, votre banquier ou le fisc ne sauront jamais ce que vous avez acheté avec.
Mais y a-t-il d'autres informations importantes dans cette étude de la BCE ?
Oui, et une en particulier, alors je ne sais pas si vous allez aimer ça, c'est la montée des caisses automatiques. Ah, ouais. 13% des magasins disposent aujourd'hui de caisses automatiques en libre service. Et là où c'est intéressant, c'est de connaître l'explication et la justification des magasins et commerces interrogés. Selon eux, ils investissent dans des caisses automatiques principalement pour suivre les préférences des consommateurs. Donc, en gros, on veut continuer à payer en cash, rester anonyme et ne plus avoir de contact avec la caissière. Voilà le futur.
Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Pierre. On se retrouve après le journal de 8h. Pierre Rondeau, on parlera des librairies qui ont besoin de cash, justement, et qui misent tout sur la prochaine rentrée littéraire. Mais tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin sur RMC, Arthur Chevalier. Il nous parle de petits Lego.
L'entreprise danoise Lego a annoncé un bénéfice record, encore record.
Eh oui, un montant astronomique, Apolline, 2,22 milliards d'euros, une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Lego résiste à tout, hein, les ordinateurs, les jeux vidéo, même à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est le leader mondial du jouet.
Et en plus, c'est toujours une entreprise familiale.
Familiale et non cotée, ça appartient à la même famille depuis la création de l'entreprise en 1932, donc ça fait presque 100 ans. Hein. Le fondateur, c'était un menuisier danois qui s'appelait Ole Kirk Christiansen. Il se lance dans la fabrication de jouets en bois. Son entreprise, il l'appelle Lego. Pourquoi Lego ? Eh bien parce que en danois, Lego, c'est la contraction de deux mots, leg et got, qui signifie joue bien. Et à l'origine, sa spécialité, c'était les voitures, les camions et les animaux en bois.
Quand est-ce qu'arrivent les fameuses petites briques en plastique ?
Beaucoup plus tard. À la fin des années 40, l'entreprise fait face à une pénurie de bois de qualité, donc elle se lance dans le plastique. Et en 1958, Lego lance sa fameuse brique interchangeable, modulable, universelle, plus qu'un concept, un coup de génie, Apolline, qui donnait aux enfants un pouvoir de créativité sans limite. Et c'est très robuste, une statistique, une brique Lego peut supporter le poids de 375 000 autres briques. Donc vous pouvez construire beaucoup de choses.
Faut en mettre beaucoup quand même. À cette époque, il n'y avait pas de figurine qui allait avec les briques.
Eh bien non, ça arrive petit à petit. Et en langage Lego, Apolline, une figurine, on appelle ça une mini-figure ou mini-fig, c'est un terme officiel. Et la toute première mini-figure, c'était en 1978, elle représentait un officier de police. Et oui, la police est la première à avoir fait son entrée dans les Lego. Et à la base, toutes les figurines étaient de couleur jaune. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il fallait que les enfants de toutes les origines puissent se projeter dans ces petits personnages.
Lego n'a jamais connu de difficulté ?
Alors si, quand même. Dans les années 90, l'arrivée des jeux vidéo détourne les enfants des briques en plastique. Les ventes chutent, c'est la panique. Est-ce que Lego est en train de devenir ringard ? Mais là, nouveau coup de génie. La marque signe un partenariat exclusif avec Star Wars. Et là, elle va reproduire du coup les scènes mythiques de la saga sous forme de briques en plastique. Un succès fou qui donc relance l'aventure.
Lego détient aussi un record totalement inattendu.
Alors ça, c'est complètement fou. Figurez-vous que Lego est le premier producteur de pneus au monde. Et oui, absolument. Devant tous ses concurrents, Bridgestone, Michelin. Non, mais je ne me plaisante pas.
Lego. C'est des petites nœuds ?
Eh bien oui, Lego en produit plus de 300 millions par an. Alors effectivement, ce sont des petits pneus pour jouer, certes, mais ça compte, et ça compte tellement que ce record est validé par le Guinness Book.
Allez, dans un instant, la météo, le journal de 7h30, et puis le week-end du 15 août, du rouge partout, samedi, sur le Buisson Futé, les bouchons, la température caniculaire, la mécanique va souffrir. Bernard Darniche, ancien pilote de rallye, va répondre à toutes vos questions. C'est dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Après l'éclipse solaire mercredi, les Français inquiets pour leurs yeux, les urgences ophtalmo prises d'assaut. La détresse d'un habitant de Neuchâtel-Ardelot dans le Pas-de-Calais qui a tout perdu, sa maison ravagée par les flammes, incendie qui n'est toujours pas fixé ce matin. Et Léon Marchand, très attendu ce matin sur le 200 mètres papillon au championnat d'Europe de natation.
L'éclipse solaire a-t-elle abîmé la vision de certains ?
Après le spectacle de mercredi, les Français sont inquiets. La précédente éclipse de 1999 a déjà laissé des séquelles chez certains spectateurs. 250 lésions oculaires, dont 17 graves. Et Marion Gauthier, aux urgences ophtalmologiques, les consultations se multiplient.
Beaucoup d'inquiets, des sensations de brûlure, quelques aventureux.
Notamment, on a eu un patient par-dessus, les lunettes a effectivement pris des paires de jumelles et c'est venu brûler donc la paire de lunettes en question.
Milan Sarovic est infirmier aux urgences ophtalmologiques de la Fondation Rothschild. Il dénombre une trentaine de passages hier après l'éclipse.
Des personnes qui n'avaient juste pas de lunettes, qui ont même oublié que c'était l'éclipse et qui étaient tranquillement en train de arroser leurs plantes et qui voilà ont été exposées malgré eux par les rayons. Quoi.
Pas de lésions graves ici, une seule dans les Hauts-de-France, qui ont pourtant enregistré 20% d'urgence en plus, détaille Vincent Dédès, le président du syndicat national d'ophtalmologie.
Une petite brûlure de la rétine, mais qui normalement devrait être réversible pour le patient. Donc aujourd'hui, on est plutôt positif effectivement sur le bilan de ces patients. Alors maintenant, il faut attendre un petit peu plus longtemps parce que les patients viendront peut-être dans un second temps en nous disant bah, « je vois pas bien d'un œil », c'est ceux-là qui seront les plus inquiétants en fait.
Les patients se disent parfois que ça va passer, ajoute mais si votre acuité visuelle baisse ou si une zone sombre apparaît au centre de votre champ de vision, il faut consulter un médecin.
L'inquiétude dans les Landes.
Le département est encore victime d'incendies. Un feu ravage les alentours de Luglon, près de Mont-de-Marsan. 600 hectares brûlés, au moins 500 personnes évacuées. Les pompiers font face à une météo défavorable. Gilles Clavreul, préfet des Landes.
On a une évolution du feu qui est encore assez incertaine puisque ça tournoie beaucoup, le vent change tout le temps et puis il est, comme on dit, ce mot vous l'avez appris désormais, convectif, c'est-à-dire qu'il génère sa propre énergie et crée son propre climat. On a eu des sautes très importantes, très éloignées du feu principal, 2-3 kilomètres. Donc on est face à un risque qui est quand même très aléatoire. Ce feu est quand même très conséquent, très imprévisible.
Ça brûle toujours dans le Pas-de-Calais, 180 hectares parcourus par les flammes, 3 pompiers légèrement blessés et une maison détruite à Neuchâtel-Ardelot. Notre envoyé spécial RMC Lou Garnier a rencontré les propriétaires pour RMC.
Sur son téléphone, Marc Hubert soupire en faisant défiler les images de leur maison familiale. Il ne reste que quelques murs calcinés, des cendres et le reste d'un escalier.
Ça c'est après. Donc il ne reste plus rien. Tout est cramé.
La maison lui appartenait ainsi qu'à sa mère âgée de 90 ans.
Elle est très choquée. Tous les souvenirs familiaux qui s'envolent en fumée.
Beaucoup de peine.
Et beaucoup de tristesse.
L'un des départs de feu s'est déclaré à quelques centaines de mètres de leur maison située dans la Pinède, juste à côté de la mer. Très vite, le feu se propage et un épais panache de fumée les oblige à évacuer. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ces incendies. Selon nos informations, l'une des pistes étudiées par les enquêteurs évoque un départ de feu depuis une zone d'attente de migrants.
On avait indiqué qu'il y avait des problèmes de salubrité et des risques de feu. C'est un peu un appel au secours. Pour essayer de limiter ce risque et de trouver une solution plus digne pour les migrants, c'est un drame humain.
Dans un communiqué, la préfecture souligne que les investigations se poursuivent afin d'établir les faits avec précision.
Un violent incendie également en Croatie, feu qui menace de nombreuses habitations, des centaines de personnes évacuées, évacuation également de centaines de touristes dans le nord de la Grèce, près de Thessalonique.
RMC 7h34, la Savoie face à une recrudescence de légionellose.
41 personnes hospitalisées, 2 décès depuis le début du mois de juin. Les autorités sanitaires cherchent l'origine de cette série de contaminations, notamment autour de Chambéry, une situation préoccupante pour Nathalie Grangéré, médecin à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Quand on voit arriver des cas de légionellose et qu'on n'a pas de source de contamination identifiée, c'est jamais très rassurant. On peut pas, par définition, maîtriser la source. La plupart du temps, la transmission se fait par inhalation de petites gouttelettes d'eau chargées en bactéries. Et le plus souvent, tout simplement en prenant sa douche, parce que les légionnelles sont très à l'aise dans des réseaux d'eau chaude sanitaire. Compte tenu du nombre de cas auxquels on est confronté, on s'attend quand même à une source d'émission plutôt au niveau atmosphérique et par des dispositifs qui ne sont sont pas des dispositifs individuels. Donc on s'attend à avoir de nouveaux cas dans les jours qui viennent.
Les impôts dans le viseur des hackers. La plateforme fiscale française a été victime d'une cyberattaque avec des données sensibles qui pourraient s'être retrouvées dans la nature. Les données de 700 000 personnes auraient été extraites et les fichiers seraient désormais en vente. Nigel Farage, réélu au Royaume-Uni. Le chef du parti anti-immigration a remporté l'élection législative partielle de Clacton au Royaume-Uni. Élection qu'il avait lui-même convoquée.
RMC, 7h35. Les Bleus brillent au championnat d'Europe d'athlétisme.
Marie-Julie Bonin, médaillée de bronze à la perche. Alice Finot a décroché l'argent hier soir sur le 3000 mètres steeple. Ravie de sa performance.
Je suis trop contente. Il y a encore quelques mois, je me disais, est-ce que j'ai ma place au championnat d'Europe? Les deux dernières semaines où on a fait l'affûtage, je me suis dit, ok, j'ai les armes pour affronter tous les types de courses, que ça parte vite, que ça finisse fort sur un dernier 1000 ou que ça finisse très fort sur un dernier 400. Je me suis dit, je pense pouvoir jouer, au moins être présente et sentir que je faisais partie de la piste, du game.
C'est à suivre également sur RMC, les championnats d'Europe de natation. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de Léon Marchand. Le champion olympique s'élancera ce matin en série sur le 200 mètres papillon. Une course Clément Brossard sur laquelle il avait remporté une de ses 4 médailles d'or au JO de Paris.
Oui, avec pour principal rival son meilleur partenaire d'entraînement au Texas, Hubert Koss, le Hongrois qui qualifie ses coéquipiers d'Avengers, un collectif de super-héros.
C'est Tony Stark.
C'est Tony Stark, le Iron Man de la bande. C'est un très bon coéquipier, l'un de mes meilleurs amis, un garçon très drôle. Sa manière de s'entraîner est incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi dur que lui.
Blessé à l'adducteur, Léon Marchand a mis la brasse de côté ces derniers mois pour se concentrer sur le crawl et le papillon.
Le papillon, c'est quand même une nage que j'ai toujours aimé. J'ai vraiment bien réussi cette saison. Du coup, c'est la première fois que je nage aussi vite. Je crois que c'était en décembre. Donc toute cette année, en fait, je me suis dit que je peux nager vite à Paris. Après, il faut le faire.
Son entraîneur aux États-Unis, Bob Bowman, réputé pour être l'un des plus exigeants de la planète, le voit battre le record du monde très prochainement, peut-être même dès aujourd'hui pour Franck Esposito, entraîneur de l'équipe de France.
Tout est possible. Hein. Après, est-ce qu'il faut le faire en demi-finale ou en finale? Ça, il faut lui poser la question. Je le laisse faire. Mais en tout cas, ouais, il a les armes pour le faire sans problème.
Et si de son côté, Léon Marchand préfère ne pas y penser?
Ah oui, toujours plus. Un record perso déjà, ce serait top.
Les fans français en rêveraient, eux qui ne demandent qu'à voir Léon Marchand décrocher sa première médaille d'or européenne.
Un véritable enthousiasme autour de ces championnats d'Europe de natation à Saint-Denis. Et justement, à 8h10, Sophie Camoun, consultante natation d'RMC, sera en direct avec nous pour en parler. Le Quintet Plus, il se déroule sur l'hippodrome de Cabourg. Ce sera à 20h15.
Le pronostic de Mathieu Zaccanini, son favori, le 5, Live Your Dreams. Son outsider est le 9, Mix Cash.
Magnifique. Merci beaucoup, Clément. On se retrouve pour le prochain journal. Ce sera à 8h. RMC. 7h37. Vos pneus peuvent éclater, le goudron peut fondre sur vos roues. Ça, on va en parler dans un instant parce que la canicule et les conditions de circulation, elles vont être compliquées dans les jours qui viennent. Mais avant cela, on va au 32-16. Retrouvez Gaël. Bonjour Gaël.
Oui, bonjour.
On est dans la Sarthe.
Effectivement, à côté du Mans.
Très bien. Et vous voulez nous parler des sapeurs-pompiers qui sont en colère, qui seront de nouveau mobilisés en septembre prochain pour réclamer davantage de moyens. Tout à l'heure, nous avions Eric qui était avec nous au téléphone. Il nous appelait depuis la Haute-Savoie. Eric, il est ancien pompier. Son fils a été également pompier volontaire. Bon, il nous disait qu'il y avait un petit problème au niveau de la sélection des pompiers volontaires. Ah, c'était assez étonnant, ses propos. Il nous disait que la sélection était peut-être trop rigoureuse, ce qui décourageait un certain nombre de candidats. Vous-même, vous êtes sapeur-pompier professionnel.
Et également volontaire.
Et volontaire. Alors, comment on peut être professionnel et volontaire, alors?
Eh bien, donc, je suis embauché par un département, le 10.
D'accord.
Et de plus, sur la commune où je réside, j'ai pris un engagement de pompier volontaire, c'est-à-dire en dehors de mon temps de travail.
Motivé, Gaël. Très motivé. Mais vous nous dites, il ne faut pas de conflit entre les pros et les volontaires.
Pas du tout. C'est deux statuts complètement différents. C'est complémentaire. Les pompiers volontaires représentent environ 80% des pompiers en France. Et donc, en fait, il faut travailler de bonne intelligence. À ce jour, on ne peut pas avoir un pompier professionnel dans chaque caserne. Un centre de secours qui effectue environ 200 interventions par an, économiquement, ce n'est pas rentable. On comprend bien.
C'est pas rentable ou on n'a pas les moyens?
C'est pas rentable. Il faudrait avoir une nouvelle découpe des secteurs d'intervention et ça serait effectivement pas rentable. On peut pas mobiliser des personnes en temps plein. Il faut rester à s'appuyer sur
la réserve des volontaires.
Sur la réserve des volontaires, effectivement, c'est extrêmement important. On en a besoin. En revanche, que... je voulais modérer ses propos sur l'information et la sélection.
C'est-à-dire, la sélection n'est pas si effroyable.
Mais non, c'est pas si effroyable. De plus, on permet aux pompiers volontaires d'avoir ce qu'on appelle un cursus différencié. C'est comme ces pompiers-là peuvent effectuer uniquement les missions de secours à personne.
D'accord. Et là, c'est ça, moins sélectif ?
C'est moins sélectif, notamment au niveau des conditions physiques. Légèrement revu à la baisse, et le temps de formation est beaucoup plus court. Un pompier volontaire qui a un cursus complet, c'est environ 30 jours, 200 à 250 heures. Mmh. Réparti sur 1 à 3 ans. Donc effectivement,
surtout, l'idée, c'est de ne pas décourager ceux qui seraient candidats. On a vu qu'il y avait, face à l'actualité, de nombreux jeunes là qui voulaient s'engager. Et merci Gaël d'avoir été avec nous. On était dans la Sarthe, du côté du Mans. Dans un instant, je vous le disais, il va faire très chaud, vous le savez, ce week-end, et notamment très chaud sur la route. Les voitures vont souffrir. Dans un instant, justement, nous serons avec l'ancien pilote de rallye Bernard Darniche, qui va nous donner ses derniers conseils. Dans un instant, sur RMC, RMC Story, vous pouvez lui poser vos questions. Pour cela, c'est simple, vous nous appelez au 3216. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h43.
J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le
Il y aura du monde sur la route en ce week-end du 15 août. Bonjour Bernard Darniche.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Bernard. Vous êtes ancien pilote de rallye, je le disais, c'est question d'âge. Mais mon Dieu que ça me parle votre nom Bernard Darniche. Quand j'étais gamin, j'adorais vous voir. Et je suis tellement content de vous avoir ce matin avec nous en direct sur RMC, RMC Story. Bernard, bison futé voit rouge sur toute la France demain. Et même noir en Auvergne, Rhône-Alpes. Des millions de Français vont prendre la route sous une chaleur écrasante, hein, on le sait, il y a Charlène Villemer qui est avec nous, notre journaliste météo, il va faire très 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 chaud. Une 75 départements en vigilance orange canicule. Pneus qui éclatent, goudron qui fond, moteur qui chauffe, surchauffe, batterie qui flanche. La canicule, ça change tout au volant, Bernard.
Oui, et puis le cerveau qui s'endort.
Ouais.
C'est ça le drame, c'est que la surchauffe, elle est pour la voiture, mais aussi pour le conducteur. Alors, le conducteur, il subit souvent sa propre inattention. Et c'est là où est le danger. Vous savez, on entend sans arrêt, attention, rouler doucement, c'est la vitesse absolue, c'est le danger. Non, c'est pas la vitesse. Et pour preuve, c'est sur l'autoroute où la vitesse est la plus importante qu'il n'y a quasiment pas de victimes, ou jamais de victimes, très peu par rapport au nombre de millions de kilomètres parcourus sur autoroute. Par contre, l'inattention, voulue ou subie, alors l'inattention subie, c'est celle qui est la plus insidieuse en fait, c'est que vous êtes dans un endroit extrêmement sécurisant, la voiture, vous êtes au milieu de gens très nombreux qui roulent tous à la même vitesse, et votre cerveau s'arrête. Vous ne conduisez plus, vous subissez le système. Mmh. Alors, il y a des petits trucs pour
bon, on a la clim maintenant dans la voiture, Bernard.
Oui, c'est ça. Ah, non, mais c'est même pas que la chaleur, c'est simplement la routine du système. Mmh. Alors, il y a plein de petits trucs. Si vous avez des enfants, et la plupart du temps, les voitures, il y a des enfants, vous les challengez. S'ils ne dorment pas, vous leur dites tous les quarts d'heure. Il vous pose une question. Qu'est-ce que j'avais comme voiture derrière? Qu'est-ce que j'avais comme voiture à gauche? Quelle était sa marque? Ça va réveiller votre esprit, obliger votre cerveau à travailler. Le danger, c'est le cerveau qui s'arrête. Vous savez, on a fait des études à l'époque. Moi, j'ai fait des études avec le CNRS sur Paris-Nice. Je vous garantis que c'est extrêmement criant. À 130 à l'heure, le cerveau s'arrête. Parce qu'il y a une espèce d'accoutumance à la vitesse qui fait que vous avez l'impression d'être arrêté.
Pour en venir, c'est le plus grand des dangers. Mais pour en venir à la mécanique, Bernard Darniche, les pneus, c'est votre premier réflexe de pilote, l'état des pneus. Pourquoi c'est le point critique lorsqu'il fait très très chaud?
Eh ben parce que les pneus, c'est une réserve d'air. Ça paraît cucu de dire ça, mais c'est une réserve d'air qui tient la voiture en suspens. Et contrairement aux idées reçues, un pneu sous-gonflé, c'est celui qui éclate. C'est pas le pneu surgonflé qui éclate. C'est pas un ballon, hein. Alors, évidemment, pour éviter ce phénomène, il faut faire la pression de pneus à froid, la veille du départ, à froid. Je dis bien à froid.
Oui.
Parce qu'avec les températures, le goudron, il est à 70-80 degrés en ce moment, hein, à certains endroits.
Oui.
Si vous partez avec un pneu sous-gonflé, 800-900 grammes, c'est pas sensible à la direction. Et un pneu gonflé à 800 ou 900 grammes à 130 km à l'heure avec une voiture extrêmement chargée, 4 personnes plus les bagages, je vous fiche mon billet qu'en 30 km il éclate. J'ai fait des tests avec les manufacturiers, on a fait des tests et c'est mécanique et répétitif. Je vous garantis qu'un pneu sous-gonflé, il éclate. Et 800 ou 900 grammes, c'est vraiment pas sensible du tout à la direction. Et beaucoup de gens ne font quasiment jamais la pression de pneu, alors qu'il faudrait la faire tous les mois.
Tous les mois. Autre élément important, une voiture qui surchauffe, ça se voit comment? Il y a une chose aussi à faire avant le départ, c'est de vérifier le niveau, par exemple, de liquide de refroidissement.
Oui, évidemment. La plupart des voitures qui ont à peu près entre 10 et 12 ans, c'est l'âge moyen des véhicules aujourd'hui. Il y a des alertes au tableau de bord. Hein. Si vous avez un niveau qui est bas, il y a des alertes. Mais les voitures un peu plus anciennes, c'est très facile de regarder son niveau de liquide de refroidissement, son liquide, la hauteur de son liquide de frein, etc.
Le symbole, c'est le thermomètre. Hein, c'est ça, c'est le thermomètre avec des petites vagues en bas.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Et il y a un niveau sur le, il y a un niveau, on voit, il y a une encoche.
Voilà. Alors, et c'est du commun, il faut vérifier évidemment l'huile, parce que s'il y a une huile insuffisamment élevée, le niveau d'huile suffisamment élevé, évidemment, ça participe à l'élévation de la température, tout ça. Il faut que le moteur soit dans des situations tout à fait optimisées.
Un élément très important aussi, parce que ça, on en parlait ce matin avec Victor Pourchet, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais avec les chaleurs extrêmes que nous connaissons actuellement, c'est le goudron fondu. On voit des endroits de la route où il y a vraiment le goudron qui fond, et ça aussi c'est dangereux.
Alors, vous savez, le secret d'un déplacement sécurisé et efficace, c'est l'observation de son environnement. Près, devant la voiture, un peu plus loin, prendre en compte l'ensemble, mais devant la voiture. Vous savez, pour les pilotes de rallye, c'est vraiment fondamental. Sur les petites routes de campagne, quand il fait très très chaud comme ça, sur les épreuves spéciales, on voit le goudron fond, les petits cailloux qui forment la route sont partis, et vous n'avez plus qu'une plaque noire, bien noire.
Ça se voit, et c'est la différence de couleur qui doit alerter.
Mais vraiment, ça se voit. Il faut éviter de mettre des roues là-dessus. Alors,
et c'est du verglas, hein, vous nous dites, c'est comme du verglas.
Moi, on appelait ça le verglas d'été. Surtout en ce moment, avec le goudron qui fond, et puis les orages qui arrivent, il y a des pluies qui ne durent pas longtemps. Mais si vous arrivez sur une plaque de goudron fondu, c'est-à-dire du verglas d'été, sur une route humide, je vous garantis, c'est un morceau de beurre dans une poêle chaude.
Bernard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Darniche, ancien pilote de rallye, qui était en direct sur RMC, RMC Story. Bon week-end à vous d'avance, Bernard. RMC, 7h49. Dans un instant, le portrait du jour. Victor Pourchet, on parle de qui?
Du nouveau cuistot des Bleus, qui est aussi le préféré de Zizou depuis 30 ans.
A tout de suite sur RMC, RMC Story. On aura peut-être des recettes.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h52, le portrait du jour avec vous, Victor Pourchet. Ce matin, vous nous présentez Roberto Falvo, le nouveau cuistot de l'équipe de France de foot. Il a un nom italien, non?
Évidemment, demande express de Zinedine Zidane, lui-même, son ami de 30 ans finalement. 1996, le pas encore champion du monde débarque en Italie à la Juventus Turin. Et quand on est joueur de la Juve à cette époque, on connaît forcément D'Angelino. C'est le restaurant du père de Roberto. Roberto, lui, est déjà au fourneau à l'époque. C'est le coup de foudre gustatif pour ZZ, un bras routinier, vous le savez.
D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures.
Et d'abord les rigatoni, toujours, aux tomates cerises, au basilic. Recette tellement commandée par Zidane qu'elle a été rebaptisée à la carte du restaurant. Désormais, ce sont les rigatoni à la Zidane.
Et attention, servi al dente, c'est important.
Ah oui, ça me permet de vous dire que ce n'est pas la première sélection en bleu de Roberto Falvo. Histoire racontée par le journal La Stampa. Euro 2000, Pays-Bas. Sans manquer de respect, pas franchement un modèle de gastronomie. En tout cas, Zidane n'est pas fan. Il aurait alors appelé son ami en catastrophe en lui disant, je cite, « Je ne supporte plus les pâtes trop cuites. Ouais. » Roberto a sauté dans l'avion et a intégré le staff des Bleus. Falvo gravitera toujours autour du groupe France lors des grandes compétitions suivantes, Mondial 2002, où le journal Le Parisien se souvient que ses sandwichs jambon-fromage avaient fait fureur. Euro 2004, le gardien Grégory Coupé avait vanté ses pâtes merveilleuses et ses petites petite pizza délicieuse.
Bon, au-delà de la cuisine, on le disait, Victor Roberto Falvo, c'est un très proche de Zidane.
Ouais, un ami du genre à lui réserver constamment une table dans une arrière-salle de son restaurant à Turin, à connaître la petite famille, la femme et les enfants. Et Zizou le lui rend bien. Roberto Falvo a une passion, nous dit la Gazzetta dello Sport, les chaussures. La légende du foot lui fait souvent envoyer des paires cultes. Par exemple, la paire portée par Zidane pour la finale du Mondial 2006. Reste à savoir si après les rigatoni à la Zidane, on aura le droit aux spaghettis à la Mbappé.
Merci beaucoup. Victor Poncher, RMC 7h54. Tout l'été, des reportages près de chez vous, 5 mois après les élections municipales.
RMC,
dans vos villes.
Et ce matin, direction la maternité de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Elle fait partie des 20 maternités menacées de fermeture depuis un rapport de la Cour des comptes. L'an passé, un moratoire a été instauré repoussant de 3 ans ces fermetures. Et depuis, le maire de Saint-Amand-Montrond se bat pour préserver l'existence de son établissement. Depuis janvier, il offre même 1000 euros pour chaque naissance dans sa petite maternité. Marion Gauthier, vous vous êtes rendu sur place. Les centres hospitaliers les plus proches sont Bourges et Montluçon, à tout de même 45 minutes de route.
En voiture vers la maternité, le maire freine brusquement. Une femme enceinte dans la rue.
Ah bah c'était inespéré.
Le ventre rond de Pauline qui accouchera à Saint-Amand-Montrond.
C'est quand même mieux d'avoir une maternité à 5 minutes plutôt que d'aller à Bourges ou Montluçon.
Éviter 45 minutes de route.
C'est la vie aussi d'une commune, les bébés, donc c'est important qu'il y ait la maternité quand même.
Arrivé dans les locaux silencieux.
Bonjour madame, j'ai du boulot partout.
Le maire exulte en écoutant Hélène, la sage-femme.
9 mamans hospitalisées. Pour nous, c'est beaucoup, ouais.
Et dans les couloirs, parmi les nouveaux parents, il y a Thibaut.
C'est tout de suite mieux d'être à côté, quoi. C'est en cas d'urgence, c'est mieux, quoi.
Donc, on était en grande baisse hein, depuis 10 ans. Donc là, grâce à vous, on est en bonne progression, je vous l'assure.
On essaye. Bon, après, c'est pas une naissance qu'il va faire, mais bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde.
Il faut 300 naissances par an pour échapper à la fermeture. La Cour des comptes estime qu'en dessous, toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
Mais je pense qu'on peut avoir un service aussi compétent en ayant moins de naissances que 300. On est aux alentours de 200, mais on est en train de progresser.
Depuis la mise en place de sa mesure, 1000 euros pour chaque nouveau-né.
Ça a déclenché effectivement un intérêt. On peut aller accoucher à Saint-Amand-Montrond, percevoir 1000 euros alors qu'on irait accoucher dans une maternité de même distance sans les 1000 euros. Bah écoutez, qu'elles viennent chercher les 1000 euros surtout.
Ici ne sont faits que les accouchements sans complications, précise Emmanuel Riotte.
En fait, il faut qu'on conserve notre maternité effectivement pour que des jeunes viennent s'installer à Saint-Amand-Montrond, chercher du travail probablement, mais ils vont choisir la ville où il y a un hôpital, où il y a un dentiste, où il y a une maternité. On va résister, c'est un bras de fer entre les collectivités locales et puis Paris.
La mesure est financée par la mairie et la communauté de communes. Les 1000 euros sont offerts sous forme de chèques cadeaux.
À dépenser dans les magasins de Saint-Amand. Ça donne un petit coup de pouce avec la vie actuelle pour tout ce qui est couches, lait, produits dans les pharmacies, etc.
Les deux enfants de Charlotte sont nés dans cette petite maternité.
Ça s'est très bien passé. Le personnel est top, les locaux sont top. C'est pas des chambres doubles ou par exemple à Montluçon, c'est que des chambres doubles, quoi. Là, c'est vraiment une maternité qui est petite, familiale et ça serait dommage de la perdre.
Le maire embraye.
On a tous les moyens humains à Saint-Amand-Montrond. On ne manque pas de moyens humains. Donc la fermeture de Saint-Amand-Montrond, pour moi, elle n'est absolument pas acceptable.
On n'y croit pas trop, entre guillemets, parce qu'on se dit c'est pas possible, elle ne peut pas fermer. Après, c'est quoi en fait? C'est l'hôpital, c'est les urgences.
Une politique du chiffre qui pénaliserait toutes les femmes, dont une commerçante, car si la maternité ferme, les gynécologues pourraient bien aussi quitter la commune.
Merci Marion Gauthier. Vous n'oubliez pas notre invité de 8h45 aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Sera en direct sur RMC et RMC Story, sécheresse inédite. Les agriculteurs réclament des milliards d'euros d'aide. Combien est-elle prête à leur donner? Elle détaillera son plan d'aide sur RMC et sur RMC. Ce sera à 8h45. Dans un instant, le journal de 8h avec l'écho, également Pierre Rondeau. Pierre, on va ouvrir un bon bouquin aujourd'hui.
Ah, et plus d'un. Il va falloir en ouvrir pas mal parce que le marché est en berne. C'est la rentrée littéraire de la dernière chance.
Allez, on se retrouve dans un instant sur RMC, RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC,
Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. À la une, Clara, la forêt landaise à nouveau ravagée par les flammes.
Le répit aura été de courte durée. Le département fait face à un nouvel incendie. 1100 hectares partis en fumée, plus de 500 personnes évacuées. Un week-end du 15 août très compliqué côté transport, grève SNCF vers la Normandie et une grève chez EasyJet. 40 vols annulés demain au départ de la France. Et puis, le Paris Saint-Germain s'offre un champion du monde. Accord trouvé avec le Barça pour l'Espagnol Ferran Torres, montant potentiel du transfert 55 millions d'euros.
Un nouvel incendie est en train de ravager les Landes.
Le département meurtrit. Il y a quelques semaines seulement à nouveau victime des flammes. Depuis hier, 1100 hectares partis en fumée à Luglon, c'est au nord-est de Mont-de-Marsan. Plus de 500 personnes évacuées et cette nuit, les pompiers ont pu le contenir grâce à un vent un peu plus faible. Mais Célestin Bougère, les habitants se réveillent sonnés.
Oui, pour certains, la nuit a été longue et difficile. Emmanuel est resté chez elle avec son compagnon et son neveu pour surveiller le bois autour de sa maison.
On a fait des rondes toutes les heures pour se remplacer, surveiller que le feu n'arrive pas et faire attention à ne pas se mettre en danger, ça c'est certain. Là ce matin, il y a beaucoup de fumée, puis il y a des cendres un petit peu partout, ça sent fort la fumée.
Mais au moment de se reposer, difficile de fermer les yeux. Emmanuel est aussi inquiète pour ses poules et son chat qui ne sont pas rentrés cette nuit. À cause de l'angoisse permanente de voir les flammes se rapprocher, elle n'a réussi à dormir qu'une heure.
De toute façon, le moindre bruit, ça réveille ou ça inquiète. Puisque comme les feux peuvent aller très vite dans le sens où ils font des sauts de 2 à 3 kilomètres, c'est énorme.
Une nuit de lutte également pour Clément, un agriculteur qui a décidé d'aider les pompiers.
On a une cuve là, on a une capacité de 6000 litres, et nos pompes et des tuyaux, et on est là pour défendre le village et on fait ce qu'on peut. C'est chez nous, donc ouais, c'est pas fait mal au cœur d'avoir tout ça.
Un combat constant pour protéger les habitations de ce village qui ont été épargnées par les flammes pour l'instant.
Les toutes dernières précisions et ces témoignages avec vous, Célestin Bougère en direct pour RMC. Dans le Pas-de-Calais, sur les dunes de la Côte d'Opale, l'incendie est contenu, pas encore fixé. Il l'est en revanche à Guérande, à l'ouest de Nantes, feu de végétation qui a contraint hier 2000 campeurs à évacuer. Le mois dernier, en Gironde, deux pompiers sont morts près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, pris au piège par les flammes dans leur camion. Un adolescent de 15 ans est désormais mis en examen dans cette enquête, interpellé avec son frère de 22 ans, frère aîné qui l'a disculpé pendant sa garde à vue. L'adolescent a été placé en centre éducatif fermé.
Les pompiers, justement, très déçus par leur rencontre avec Laurent Nunez.
Elle n'a pas calmé la colère des 9 syndicats venus demander plus de moyens. Ils en ressortent, disent-ils, sans réponse concrète. Romain Cluzel, service politique d'RMC. Le ministre a pourtant tenté de faire un pas vers eux.
Oui, les deux annonces de Laurent Nunez laissent les sapeurs-pompiers sur leur faim. D'abord, concernant le projet de loi pour moderniser la sécurité civile. Ce texte est attendu depuis près d'un an par les sapeurs-pompiers. Il sera présenté au syndicat le 8 septembre, mais aucune date pour son examen au Parlement n'est encore fixée. Laurent Nunez promet aussi une augmentation des budgets des services départementaux d'incendie et de secours, sans s'engager sur des montants qui restent à négocier avec les départements et les communes. Alors, les sapeurs-pompiers estiment que le ministre n'est pas au rendez-vous et ils veulent lancer une mobilisation d'ampleur à partir du 26 septembre, au moins 4 jours de manifestation sur la place de la République à Paris pour réclamer entre autres la création de 21 000 postes de sapeurs-pompiers professionnels.
Une découverte macabre à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne en région parisienne. Une jeune femme retrouvée morte dans un local technique de l'hôpital. Les conditions de sa mort restent à éclaircir, mais Pierre Bazin, cela pourrait être dû à la chaleur.
Oui, puisque c'est dans la chaufferie de l'hôpital que le corps a été découvert hier matin. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime serait une jeune femme qui n'appartiendrait pas au personnel de l'hôpital et qui ne portait pas non plus de bracelet d'admission obligatoire pour tout patient. Son corps a été découvert avec des traces de brûlure, laissant penser que la chaleur est responsable du décès, mais c'est l'autopsie qui permettra de déterminer les raisons de sa mort. Quant à sa présence dans le local technique, là encore, le mystère reste entier. D'après une source policière, quelques jours avant les faits, des ouvriers avaient réalisé des travaux dans le local et ils auraient pu mal refermer la porte, laissant ainsi un accès plus facile à cet espace. Des traces de sang ont par ailleurs été constatées sur le sol. Les investigations vont donc devoir déterminer en priorité l'identité de la victime et si un tiers est intervenu dans ce décès.
Pierre Bazin du service police-justice d'RMC.
Un chassé-croisé bien compliqué ce week-end.
Avec du monde sur la route. C'est rouge dans le quart sud-est dans le sens des retours, orange partout ailleurs dans le sens des départs. Ça va aussi rouler difficilement dans ce même quart sud-est. Demain, ce sera pire. Rouge partout et même noir côté départ en Auvergne-Rhône-Alpes. Ajoutez à cela une grève SNCF, un TER sur deux annulé dès aujourd'hui en direction de la Normandie et une grève chez EasyJet. Environ 40 vols annulés demain au départ de la France. Probablement autant dimanche. Vincent Chevalier, les voyageurs de la compagnie low cost contraints de s'organiser.
À 3 jours du départ, Aurore, une habitante de l'Aisne, garde le sourire.
Ça aurait pu aller mieux, mais ça va quand même.
Elle est censée partir dimanche midi à Marrakech avec EasyJet, un voyage réservé depuis plusieurs mois.
Puis là, en plus, c'était pour l'anniversaire de mon mari, c'est 40 ans, donc on croise les doigts et on se dit, allez, peut-être que notre vol sera pas impacté. C'est vrai qu'on est un peu dégoûté quand même, quoi.
Conscient de l'impact d'une grève le week-end du 15 août, les syndicats assument, ils veulent marquer le coup et dénoncer l'instabilité chronique des plannings. William Bourdon, secrétaire de la section EasyJet pour le syndicat SNPN-CFO.
Qui dit fatigue accrue chez les personnels navigants dit la sécurité qui est compromise potentiellement, puisque si les PNC ne peuvent pas avoir les temps de repos adaptés, sont constamment perturbés, je pense à des bases comme Lyon par exemple, qui vont subir des 50 voire 60 changements de planning par mois, ils sont très stressés, très perturbés, très fatigués, automatiquement ça met en péril la sécurité de nos passagers.
Dans un communiqué, EasyJet se dit déçu de cette action menée malgré sa proposition d'ajustement. La compagnie demande au syndicat de renoncer à cette action qualifiée d'opportuniste.
Eh bien justement, si vous voulez réagir à ces mouvements de grève en plein week-end de départ ou de retour de vacances, vous nous appelez au 3216.
Un week-end du 15 août qui s'annonce encore chaud, même si le pic de la canicule sera passé et que les températures doivent commencer à baisser. 75 départements en vigilance orange aujourd'hui. Et face à la chaleur, les cinémas deviennent des refuges. Hausse de fréquentation, les records en juillet, plus 42% par rapport à la même période l'an dernier, se félicite la Fédération Nationale des Cinémas Français, le secteur bien sûr porté par les dernières sorties de films, mais donc aussi par la canicule, Grégoire Morelli.
Annabelle est une fidèle de ce cinéma parisien et plus il fait chaud, plus elle regarde de films.
Pendant la grande canicule de juin, j'y suis allée 3-4 fois. Dans la même journée, je pouvais aller de 10h et repartir à 23h, même minuit, tellement il faisait chaud et que c'était insupportable.
André, lui, 70 ans passé, soupire de soulagement en rentrant.
D'arriver là, ça fait du bien.
Il vient en avance pour profiter au maximum de la climatisation.
Je suis venu parce que j'avais trop chaud chez moi. Et j'ai passé 3 après-midi de suite au cinéma.
Pareil pour Lou et Antoine, arrivés avec plus de 20 minutes d'avance.
Là, il fait quand même une chaleur dingue et c'est vrai que même en dehors des salles, enfin même là, c'est climatisé, donc c'est cool.
Et ce mercure élevé, ça leur donne même des idées de films à regarder.
Comme par exemple la Comédie Française, peut-être qu'on va aller le voir aussi. Alors qu'on ne serait pas allé le voir normalement.
Entre les canicules et les films à l'affiche, les salles de cinéma françaises tablent sur 190 millions d'entrées cette année, soit près de 30 millions de plus qu'en 2025.
La plateforme des impôts victime d'une cyberattaque, confirme le ministère de l'économie, après la revendication d'Ibercy d'un acteur malveillant. C'était hier, avant-hier, un piratage fin juin du site impots.gouv.fr qui a permis d'accéder à l'adresse, au numéro de téléphone et au numéro fiscal, notamment des déclarants. 700 000 usagers potentiellement concernés. C'est officiel. Au Royaume-Uni, Nigel Farage est réélu député. Le chef du parti anti-immigration Reform UK avait démissionné après des scandales financiers avant de se présenter à nouveau. Élection boycottée par les partis traditionnels. Nigel Farage a donc gagné face notamment au candidat satirique Count Beanface, un candidat à la tête de poubelle.
On sait désormais avec qui Zinedine Zidane va travailler.
Le nouveau sélectionneur des Bleus a officialisé son staff hier, parmi lesquels son fidèle David Bettoni, son adjoint de la première heure au Real Madrid, un ancien coéquipier également, Fabien Barthez, le champion du monde 98 qui sera en charge des gardiens. Et nouveauté, un podologue fera partie du staff. Marc Retali a été choisi. Il a longtemps travaillé avec le club de Sochaux. Prévenu au dernier moment, il n'en revient toujours pas.
J'ai même cru une blague au début. Je me dis, c'est pas possible. Zinedine Zidane, c'est un monument pour nous, les Français, en fait. Donc, rentrer dans son staff à lui, je sais pas, c'est un peu comme si le général de Gaulle, il vous appelle pour aller faire une mission spéciale, quoi. C'est pareil. C'est un peu un monument national pour nous tous. On a tous une histoire avec France 98. Et, un peu comme la veille de Noël, en fait. On attend juste que la nuit soit passée pour aller voir les cadeaux. Ben là, ça va être pareil. C'est l'endroit où j'ai toujours voulu être, en fait, clairement.
Le Paris Saint-Germain, lui, toujours en plein mercato, avec bientôt dans ses rangs un champion du monde, l'Espagnol Ferran Torres, doit arriver du Barça. Les négociations sont en très bonne voie, David Alias.
Oui, puisqu'un accord de principe a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le transfert de Ferran Torres. Après une première offre de 40 millions d'euros rejetée en début de semaine par le Barça, Paris est finalement parvenu à séduire les dirigeants catalans et les deux clubs se seraient mis d'accord pour une opération avoisinant les 55 millions d'euros. Le joueur devrait s'engager pour 5 ans. Seul buteur et héros de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, l'attaquant espagnol au profil polyvalent plaît énormément à Luis Enrique. Le technicien parisien a déjà entraîné Ferran Torres lors de son passage à la tête de la sélection espagnole. Ce mercredi, le champion du monde n'a pas participé à l'entraînement du FC Barcelone, signe que son arrivée au Paris Saint-Germain se précise.
David Alias pour RMC.
Merci beaucoup Clara, RMC 8h11. Dans un instant, il est guéri à 70%. Il ne fera que deux courses, mais il pourrait décrocher deux records du monde. Le phénomène Léon Marchand replonge ce matin dans les bassins des championnats d'Europe de Saint-Denis. Sophie Camoun, consultante natation d'RMC, est avec nous. Dans un instant, elle nous dit ce qu'on peut attendre de ce week-end. C'est donc dans un instant sur RMC et sur RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h14, c'est le moment qu'on attend tous. Léon Marchand entre en lice ce matin en individuel au championnat d'Europe, série du 200 mètres papillon à 9h30, demi-finale ce soir, finale demain, puis 400 mètres nage libre dimanche, un programme réduit, hein, le quadruple champion olympique a renoncé aux 200 et 400 mètres 4 nages, touché à un adducteur, il est guéri à 70%, nous dit-on, les Bleus en tout cas comptent déjà 6 médailles depuis lundi et suscite un véritable enthousiasme. Bonjour Sophie Camoun.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Sophie, vous êtes consultante natation pour RMC. Avant de parler de Léon Marchand, Sophie, d'abord un petit mot, votre réaction à l'annonce de la retraite de Florent Manaudou, on l'a appris ces dernières heures, hein. C'est une légende de la natation française qui s'en va. Bon, c'était attendu Sophie?
Oui, c'était attendu puisqu'il n'a pas remis les pieds dans l'eau depuis les Jeux Olympiques de Paris en 2024, même si on espérait, parce qu'on sait que c'est un nageur de 50 mètres, donc il peut nager sans faire trop d'entraînement. Mmh. On espérait peut-être qu'il allait se remettre à l'eau pour les championnats d'Europe de Paris. Il ne l'a pas fait, on sait maintenant qu'il ne reprendra plus. C'est une légende simplement qui raccroche le maillot de bain à un garçon qui a beaucoup, beaucoup apporté à la natation française et qui y est pour beaucoup dans les résultats de la natation française d'aujourd'hui.
Il a 35 ans, il aurait pu continuer un peu ou pas? Pour un nageur, 35 ans aujourd'hui.
Anthony Irvin l'avait battu, le nageur américain Anthony Irvin l'avait battu aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, et il avait 34 ans. On peut encore performer sur des épreuves comme le 50 mètres, on peut encore performer à 34-35 ans, mais Florent a déjà fait 4 médailles aux Jeux Olympiques, ouais. C'est le plus beau palmarès de l'histoire de la natation française.
Il a déjà beaucoup donné.
Exactement, en longévité, ouais. Je parle, c'est vraiment le plus beau palmarès. Il a porté la natation française entre 2016 et 2022, au moment où ça n'allait pas du tout. Il a permis à la natation française d'éviter de se noyer, on peut le dire. Il a été le seul nageur à remporter une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. On lui doit énormément, et voilà, qu'il profite de sa retraite et qu'il soit heureux.
Et il faut dire qu'il y aura une belle cérémonie demain annoncée, hein, demain à 18h, en présence de sa sœur Laure Manaudou. Dans quel état physique, ouais, et mental est Léon Marchand ce matin, avant de se présenter dans les bassins?
Alors ce matin, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, il va bien parce qu'il a quand même fait une performance supersonique le premier jour de compétition au départ du relais 4x200.
Alors qu'il est gêné par une blessure.
Oui, alors il est gêné surtout en brasse. Hein. C'est la raison pour laquelle il a déclaré forfait aux 200 brasses et dans les épreuves de 4 nages, parce qu'il y a un parcours de brasse, hein, dans les épreuves de 4 nages. Il est beaucoup moins gêné dans les autres nages, et notamment en papillon et en nage libre. Et d'ailleurs, ce matin, il s'élance sur le 200 mètres papillon. C'est une épreuve, souvenez-vous, la dernière fois qu'il l'a nagé au plus haut niveau international, c'est quand il a remonté le Hongrois Christophe Bilak dans le dernier 50 mètres de la finale des Jeux Olympiques. Je pense que tout le monde s'en souvient. Il l'a pas renagé depuis, et pourtant on sait qu'il a beaucoup progressé physiquement, techniquement, et je crois qu'il a dans un coin de sa tête le fait d'aller chercher ce record du monde historique de Christophe Milak, puisque ça, c'est un record qui date de 2019. Et pour la petite anecdote, Léon disait encore il y a 2 ans, ce n'est pas un record du monde, c'est un record d'un autre monde. Et aujourd'hui, il veut aller le chercher. Et on aimerait bien, parce que Christophe Milak a quand même pris le record d'Europe à Maxime Grousset sur le 100 mètres papillon hier. Donc je pense que Léon, qui est un grand copain de Maxime, a bien envie de le venger aujourd'hui.
Il a déjà été hyper impressionnant là sur le relais ces derniers jours.
Oui, hyper impressionnant sur le relais, et ce qui aussi nous laisse penser que il peut aller chercher quelque chose de très grand sur 400 mètres nage libre. On l'a vu sur 200 au départ du relais mettre 2 secondes à l'Allemand Martens. Et l'Allemand Martens, c'est tout simplement le garçon qui vient de battre le record du monde du 400 mètres. Mmh. Donc ces deux gars vont s'affronter dans 2 jours, dans l'épreuve du 400 mètres. Et de plus en plus, autour du bassin, on entend des rumeurs disant que Léon peut non seulement gagner le 400 mètres, mais pourquoi pas aller battre le record du monde de Martens. En tout cas, Léon, c'est un garçon qui a besoin de challenge, qui a besoin de faire des choses qu'il n'a jamais faites auparavant. Mmh. Et ce 400 mètres, c'est un énorme challenge pour lui.
Sophie, restez avec nous. Lucie nous rejoint au 32-16. Bonjour Lucie.
Bonjour.
On est à 3 dans l'Aube.
Oui.
Vous faites quoi dans la vie, Lucie ?
Agent immobilier.
D'accord. Et vous êtes hyper enthousiasmée par ces championnats d'Europe ?
Ah oui, bah la natation entre les JO et là maintenant, oui.
Vous êtes nageuse vous-même ou pas, Lucie ?
Oui.
D'accord. En club ?
Oui.
D'accord. Et vous dites, depuis les JO de Paris 2024, vous n'avez pas... vous êtes toujours aussi enthousiaste.
Ah oui, toujours, oui, ils sont extraordinaires quand on voit ce que Maxime Grousset fait, alors qu'on sait qu'il est diminué, et ce qu'il arrive à faire sur le 50 ou le 100 papillon encore hier. C'est merveilleux, c'est une résilience et ça donne vraiment une inspiration pour les jeunes pour, quand on veut, on peut, et que, voilà, le sport est très important.
Lucie, merci d'avoir été avec nous. Lucie qui nous appelait depuis l'Aube. Elle nous parlait de Maxime Grousset, Sophie Camoun. Maxime Grousset, il faut en parler.
Ah bah oui, vous pouvez en parler. Il a déjà décroché 3 médailles alors qu'il y a encore 15 jours, il ne savait pas s'il allait participer à ces championnats d'Europe. Savoir qu'il s'est cassé le pied il y a exactement 2 mois, qu'il a nagé pendant 1 mois avec une botte, en tout cas sans pouvoir utiliser ses jambes. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est phénoménal. Il est déjà au niveau de ce qu'il a fait l'année dernière quand il a été double champion du monde, alors qu'il a eu une préparation totalement tronquée. Donc Maxime Grousset progresse, Léon Marchand progresse, nos meilleurs nageurs progressent et emmène dans leur sillage tout un tas de jeunes.
et c'est vrai que cette ambiance, il faut en parler aussi de l'ambiance qui est actuellement à Saint-Denis. Là. Certains nous disent qu'on retrouve l'ambiance des JO 2024, ça fait du bien, ça fait plaisir.
Ça fait du bien. Moi, je trouve que c'est presque encore mieux. Parce que la piscine est plus petite. Il y a une capacité de 5000 personnes. Au JO, c'était 3 fois plus. Et je trouve que le public, la piscine et l'enceinte est plus petite. Donc, le public est encore plus près des nageurs. Et on a l'impression qu'il y a une vraie communion entre les nageurs et le public. En plus, c'est un public de un peu plus de passionnés, de gens qui sont proches de la natation. Donc, on a l'impression que c'est une immense famille qui se retrouve pendant ces championnats d'Europe. Mmh. Et moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique pour la natation française d'avoir eu ces Jeux Olympiques, d'avoir ces championnats d'Europe 2 ans après, d'avoir cette exposition-là. Et ça va permettre de continuer à développer la natation dans les clubs, dans les écoles de natation aux quatre coins de la France. Mmh. Et c'est ce que disait votre invité tout à l'heure.
Merci beaucoup, Sophie Camoun, consultante natation pour RMC, d'avoir été avec nous ce matin. Et les championnats d'Europe de natation, c'est à vivre en direct évidemment sur RMC. Ce sera ce soir, Intégral Sport, entre 18h et 20h. RMC 8h22. Pierre Rondeau, notre économiste, est avec nous dès la semaine prochaine. Pierre, commence la rentrée littéraire, la rentrée de la, peut-être en tout cas, de la dernière chance pour un marché qui est en berne.
Oui, hein, Rémi, dès la semaine prochaine va commencer la fameuse rentrée littéraire avec la sortie de 461 nouveaux romans étalés jusqu'au mois d'octobre. Le chiffre 461 nouveaux livres est en légère baisse par rapport à 2025. Il faut dire que les ventes de livres ne sont pas bonnes depuis quelques temps, une baisse de 1,5% en 2025 et 6,8% sur le seul premier semestre 2026. Cette année, on a appris le placement en redressement judiciaire du groupe Gibert, premier libraire indépendant, et quelques semaines plus tard, les librairies Furet du Nord et des Citres étaient elles aussi en difficulté financière. Autre donnée inquiétante, en 2025, il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures de librairies. Alors oui, cette rentrée littéraire est un peu celle de la dernière chance.
Alors comment l'expliquer, Pierre ? Les gens ne lisent plus ?
Alors si on veut être très factuel, non. Les gens ne lisent pas moins, c'est même le contraire. Selon le Centre National du Livre, le nombre nombre moyen de livres lus par an en 2015 était de 16, contre 18 aujourd'hui. Les gens lisent donc plus, mais ils ont simplement adapté leur façon de consommer la littérature. Il y a l'essor du livre numérique, du livre audio, qui ne sont pas forcément vendus en librairie, l'explosion de la vente du livre d'occasion sur les sites notamment comme Vinted, puis surtout la concurrence des plateformes comme Amazon, où l'on peut commander directement sur Internet et se faire livrer à domicile. On ne rentre plus dans une librairie, on ne feuillette plus les pages avant d'acheter un livre, on ne demande plus de conseils auprès de son libraire et on ne soutient plus le petit commerce.
Alors que c'est encore un secteur qui pèse énormément.
Oui, parce qu'au-delà de l'aspect culturel, le marché du livre est un secteur économiquement très important. La filière représente environ 80 000 emplois directs et indirects, ce qui en fait le premier employeur des industries culturelles. Alors oui, on n'a pas opposé plateforme de vente en ligne et librairie. On n'a pas de chance parfois de ne pas avoir une librairie près de chez soi, accessible et bien fournie. Mais pour sauver des emplois, essayer d'aller plus souvent dans des librairies, ne serait-ce que pour l'ambiance.
Vous allez être nombreux à prendre la route dans les heures qui viennent pour rentrer de vacances ou partir en vacances. Un point sur les prix des carburants.
Alors ça augmente malheureusement pour le grand départ en vacances. Le litre de samplon 95, il est à 1,99€, 1,979€ hier. Le gazole 2,195€, lui aussi il augmente puisqu'il était hier à 2,176€. Le baril de pétrole baisse très légèrement à 86,68€. Et le gaz lui aussi augmente à 60,59€.
On parlait de départ en vacances, lui est toujours en vacances Arnaud Demanche, mais il nous a laissé son meilleur.
Arnaud Demanche qui nous rejoint, salut Arnaud.
Bonjour les amis. Allez, pour démarrer la journée, un sourire, Apolline. Car on va parler du député Rassemblement National, Mathias Renaud. On s'est foutu de sa gueule partout, mais pas encore ici. Et c'était pas très juste. Il était temps de réparer. Parce qu'il a voulu supprimer les subventions du festival Les Transmusicales de Rennes. Ah oui. Il croyait que c'était un festival de promotion des transgenres dans la musique. Donc ça aurait été quoi? Un festival avec que Raïm Redcar, anciennement Christine and the Queens, qui s'appellera Frigidaire Tournebeuf l'année prochaine, on ne sait pas. Mais bon, Mathias Renaud, il faut faire attention. Transavia n'est pas une compagnie aérienne avec des avions pilotés par des drag queens.
Salut les loulous, ici Lolita Banana, votre pilote assisté du commandant Zouzou Barbichou. La température en cabine est très chaude. Le décollage est immédiat, même si c'est pas facile de piloter avec des talons et des ongles de 20 cm. Attachez vos ceintures, c'est parti pour toute la night.
Et le pauvre Mathias Renaud,
faites-moi descendre!
Cuisse de poulet ou queue de loche?
Je veux sortir d'ici!
Donc, les pays transfrontaliers, c'est pareil. Il n'y a pas de transgenre à toutes nos frontières, voilà, à part en Allemagne, avec des femmes de 95 kilos de muscles et une moustache. Et si tu prends un transsibérien, c'est pas Vladimir Poutine sous œstrogène qui te fait l'amour. Sa vie doit être un enfer!
Le gouvernement va envoyer une lettre à tous les Français de 29 ans.
Oui, la France, comme Jeffrey Epstein, a besoin d'enfants. Oh. Alors par contre, une lettre de Le Cornu pour relancer la natalité. Oui. Est-ce que ça vous motive,
Pauline? Oui, j'ai un petit doute sur l'efficacité.
Est-ce que, tu recherches les célibataires les plus fertiles à moins de 5 km de chez toi? Tu veux rencontrer les géniteurs les plus chauds de ta région? Alors inscris-toi sur France Levrette. Et inscris-toi à la crèche aussi, parce qu'il y a 3 ans d'attente. Voilà. Si vous appelez ça, c'est parce que vous avez appelé un numère au vert.
Elle est bonne. Au vert, elle est excellente.
Moi, j'aurais proposé à Bruno Le Maire d'écrire la lettre.
Ah oui.
Citoyenne, tu es chaude et moite.
Oh non.
Et soudain, tu aperçois un cotisant français torse nu sur une plage de sable fin. L'envie de créer un nouveau ménage imposable fait durcir tes mamelons patriotes.
T'es sûr, Bruno? Il y a quelques années, souvenez-vous, on disait pas ça, on disait attention à la surpopulation, ne faites pas d'enfants, c'est du carbone, oui. Ça rendait tout le monde coupable. D'ailleurs, moi, c'était ma défense numéro 1 pour prendre l'avion. Je disais, m'en fous, j'ai pas d'enfants. Ouais, mais ça veut pas dire que t'as le droit de prendre l'avion. Non, ça veut dire que j'ai les moyens de prendre l'avion.
Allez, dans un instant, la météo, le journal de 8h30 et puis sécheresse historique. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, vient détailler son plan d'aide. Combien est-elle prête à débloquer pour venir en aide au monde agricole? C'est dans un instant sur RMC Story. Les prévisions météo, c'est avec Charlène Villemer. Il va faire chaud et ça va encore durer, Charlène.
Oui, les jours se ressemblent et se suivent. Le thermomètre va frôler les 41 degrés dans la vallée du Rhône. Cet après-midi, la chaleur, elle commence à se décaler vers l'est. 40 degrés à Nevers, à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Très chaud encore dans le sud-ouest aujourd'hui. Surtout dans les terres, avec 40 degrés à Toulouse et Montauban. Plus doux sur le Pays Basque, déjà 26 degrés à Biarritz. Les Bretons et les Normands commencent à respirer. 25 degrés attendus à Brest et à Cherbourg. Et puis les premiers orages vont se mettre en place sur l'ouest des Pyrénées. Le massif central, la montagne Corse ou encore les Alpes, les nuits, elles vont encore se ressembler. Malheureusement, encore une nuit tropicale la prochaine avec 28 degrés près de la Méditerranée.
RMC 8h30.
On a deux feux ou deux zones de feu. La principale qui est là de... qui a commencé.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Guidz. Clément, l'inquiétude est grande dans les Landes où le feu continue de gagner du terrain.
La surface a brûlé, a doublé depuis hier, 1100 hectares depuis hier et plus de 500 personnes évacuées. La canicule et la sécheresse forcent l'annulation de nombreux feux d'artifice pour ce week-end du 15 août. Et les frères Collet vont vivre ensemble aujourd'hui le premier grand championnat d'Europe d'athlétisme en Angleterre engagé sur le saut à la perche.
Le feu prend de l'ampleur dans les Landes.
Les flammes se rapprochent de la commune de Luglon et les mauvaises conditions météo ne facilitent pas le travail des pompiers. 1100 hectares brûlés, 525 personnes évacuées depuis hier. Gilles Cravol, préfet des Landes.
On a deux feux ou deux zones de feu. La principale qui est là de qui a commencé hier après-midi et puis une saute un petit peu plus loin, direction sud-est. Des petites blessures légères pour 5 sapeurs-pompiers. On s'attendait à franchir le seuil des 1000 hectares. On n'est pas surpris par l'évolution des choses. Là, on sait que la journée va être encore très intense, hein, qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des moyens d'un petit peu partout qui ont afflué. Et puis encore, grosse capacité de moyens aériens. On a vraiment tout ce qui est disponible. Hein.
Les pompiers toujours mobilisés sur le littoral du Pas-de-Calais. L'incendie qui a démarré mercredi n'est toujours pas fixé. 180 hectares brûlés, 3 sapeurs-pompiers légèrement blessés. Un adolescent de 15 ans mis en examen après l'incendie près de l'aéroport de Mérignac en Gironde le mois dernier qui avait coûté la vie à 2 pompiers. Il a été placé en centre éducatif fermé.
Les pompiers qui réclament des moyens, le gouvernement leur promet une réforme.
Le ministre Laurent Nunes annonce un projet de loi pour moderniser la sécurité civile. Mais pas question pour l'instant de promettre des milliards. Le ministre veut d'abord trouver un accord avec les départements.
Ça n'est pas rien que le gouvernement dépose effectivement un projet de loi. Ça n'est pas rien dans le contexte politique que nous connaissons. Et ça n'est pas rien que nous ayons acté le fait de travailler sur les ressources des services départementaux d'incendie et de secours. On m'a demandé de m'engager sur des chiffres. Évidemment, je ne le peux pas. Pour les moyens, nous devons aussi... composé, et c'est normal, c'est la libre administration des collectivités locales avec les élus. La partie qui nous concerne, je le redis, nous avons augmenté le budget de l'État de 10% cette année, de 93% si on prend la séquence des 10 dernières années. Voilà, pour la partie qui est la nôtre, on fait évidemment le job.
Les pompiers sont très déçus par les promesses du ministre. Eux veulent plus de moyens, recrutement massif de sapeurs et l'adoption rapide d'un projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Une mobilisation est prévue le 26 septembre prochain partout en France.
Il va encore falloir faire avec la chaleur.
Une grande partie de la France est en vigilance orange canicule. Ce sera le cas également demain, comme nous l'a annoncé en début de ce journal Charlène Villemer. Conséquence de cette chaleur et de cette sécheresse, de nombreuses communes annulent leurs feux d'artifice prévus ce week-end du 15 août, de la Gironde au Nord-Pas-de-Calais, à Najojar.
Pas de feu d'artifice ce 15 août à Pertuis dans le Vaucluse.
On se dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir.
Aurélien Auclair est le maire de la commune.
Nous avons connu cet été là 4 incendies importants. Reporter un feu d'artifice, oui, ça coûte de l'argent, mais je pense que quand on voit les dégâts que le feu peut causer, le désarroi et la fatigue de nos pompiers, mais finalement on se dit que si on peut leur donner un petit coup de main et pas leur rajouter du travail, c'est du bon sens.
Et ce maire s'interroge sur l'avenir de ces feux d'artifice en été. Plus à l'ouest, dans l'Aude, les mairies de Fleury et Narbonne ont déjà tranché.
On change de saison. Pour les feux d'artifice, ils ne seront plus tirés l'été. C'est définitif.
Bertrand Malquier, le maire de Narbonne.
Chaque année, on annulait, on déplaçait les feux d'artifice et on avait toujours une épée d'Amoclès. On a choisi d'avoir deux nouvelles saisons, le printemps et l'hiver, qui seront plus favorables.
Un changement de saison auquel se préparent les artificiers. Jérôme Julien est gérant de la société Pyro Event en Isère.
On a déjà commencé, nous, lors de la signature des feux d'artifice, à prévoir de suite une date de report sur l'hiver, notamment. Vu les conditions météo qui s'aggravent, malheureusement, hein, je pense qu'on va être obligé de travailler comme ça.
Et sur les 80 feux d'artifice qu'il avait prévus cet été, il estime en avoir tiré seulement 10.
RMC 8h34, le site des impôts piratés.
L'attaque aurait eu lieu fin juin et la Direction Générale des Finances Publiques tente toujours de déterminer l'ampleur de la faille. Et Caroline Renaud, derrière cette cyberattaque, ce sont des données de milliers de contribuables qui pourraient être concernés.
Oui, le pirate y aurait eu accès grâce à une usurpation d'identité. Avant d'être expulsé des serveurs, il aurait ainsi dérobé les données de particuliers et de professionnels, des noms, dates de naissance, identifiants fiscaux ou encore numéros de téléphone. Le ministère de l'Économie ne précise pas le nombre de contribuables concernés, mais selon le site spécialisé French Bridges, ce sont les données de près de 700 000 personnes qui auraient été extraites et le fichier serait désormais en vente pour plusieurs milliers d'euros. Les usagers concernés seront bien contacter. Mais prudence, si vous recevez prochainement un appel prétendant venir des impôts, ne communiquez jamais vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires par téléphone.
Donald Trump sort encore l'arme des droits de douane et cette fois, les drones sont dans le viseur. Les drones importés pourraient désormais être frappés de droits de douane allant jusqu'à 100%, une mesure qui vise notamment les technologies étrangères, celles notamment européennes.
Armez-vous de patience si vous êtes sur la route ce week-end.
Canicule, bouchons et circulation classée rouge demain, voire noire dans le sud-est et certains automobilistes prennent les devants. Alexandre Thibault, vous les avez pu les rencontrer.
Selma arrive à Dax pour le week-end, près de 2 heures de route avec 40 degrés dans la voiture, sans clim.
C'est dur, il fait chaud, on sue de partout.
Alors pour son retour ce week-end...
Pour éviter la chaleur, on va partir plutôt début de matinée. Comme ça, on n'a pas la vague de chaleur et le gros pic à 15h, 14h qui va nous taper dedans. Quoi.
Pour les supporter, ces chaleurs, chacun sa solution. Sur une aire d'autoroute du sud-ouest, François mange une glace.
Déjà, c'est boire beaucoup d'eau et puis effectivement se faire plaisir avec une petite glace de temps en temps.
Et surtout pendant que sa voiture est garée au soleil...
Le pare-soleil sur le pare-brise, ça aide un peu quand même.
Un peu plus loin, sous un arbre à l'ombre, Ghislaine et ses amis déjeunent avec leur nouvel accessoire indispensable.
Un frigo dans la voiture, c'est une glacière, mais avec un compresseur. Il est à 3 degrés et on peut boire frais.
Mais l'arme de nombreux conducteurs, c'est la climatisation.
La clim tourne à fond, oui.
Liliane est même résignée à conduire sous 39 degrés.
On se finit par s'habituer à la cinquième vague de chaleur, peut-être.
Une climatisation qui devrait être nécessaire. Jusqu'à 40 degrés sont attendus aujourd'hui et 38 demain.
Et c'est orange aujourd'hui dans le sens des départs sur l'arc méditerranéen, rouge dans le sens des retours, orange sur le reste du pays. Une quarantaine de vols d'EasyJet annulés demain, conséquence d'une grève du personnel. Ce week-end, ils demandent de meilleures conditions de travail, des perturbations également sur les rails, sur l'axe Paris-Normandie en raison d'une grève. Un train sur deux circulera.
RMC 8h37, place aux perchistes au championnat d'Europe d'athlétisme.
Les qualifications du saut à la perche masculin débutent aujourd'hui avec l'immense favori Armand Duplantis, recordman du monde. Côté français, ils seront trois, dont les frères Mathieu et Thibaut Collet, qui vont disputer ensemble leur tout premier grand championnat. Un moment forcément particulier pour les deux frères, Léna Marjac.
L'un étant habitué des grandes compétitions, Thibaut, 27 ans, 5e des derniers championnats du monde et championnats d'Europe. Et puis il y a Mathieu, l'aîné, 31 ans, qui lui vit sa première sélection en équipe de France.
C'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'expérience alors que j'en ai 4 de plus. Quoi. C'est très facile de l'avoir avec moi en chambre, parce que bon, il apporte des informations avant même que j'ai besoin de les demander, il anticipe aussi.
Et donc en plus de partager leur chambre d'hôtel, les frères Collet vont partager aujourd'hui le même sautoir pour les qualifications du saut à la perche, l'occasion pour Thibaut, le plus jeune, de conseiller son frère.
Je vais pouvoir l'aider si je sens qu'il y a besoin qu'il temporise sur quelque chose. Quoi qu'il arrive, il y aura des échanges et des moments où on pourra s'aider mutuellement.
De l'entraide, oui, mais la compétition avant tout, pas de place aux affinités dans les moments importants pour Thibaut.
On a ce lien du sang qui fait quoi qu'il arrive, on s'aidera. Maintenant, s'il faut sauter plus haut, que ce soit lui ou moi, on le fera.
Sachant que leurs objectifs sont totalement différents. Mathieu Collet, l'aîné, vise une qualification en finale, alors que son petit frère Thibaut a le podium dans un coin de la tête.
Ça fait 2 championnats que je fais 5e, je veux faire mieux. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Une vingtaine de proches de Mathieu et Thibaut a fait le déplacement, dont Jacques, le grand-père, et bien sûr Philippe, le papa et entraîneur.
Et on suivra également le grand retour de Léon Marchand sur le 200 mètres papillon, début des séries à 10h29. Les championnats d'Europe de natation, c'est à suivre sur RMC, émission spéciale de 18h à 20h.
Le Quintet Plus, Clément, il se déroule aujourd'hui sur l'hippodrome de Cabourg, ce sera à 20h15.
Et le pronostic de Mathieu Zaccanini, son favori, le 5 Live Your Dreams, c'est son outsider, le 9 Mix Cash.
Merci beaucoup Clément, prochain journal, ce sera à 9h. David est avec nous au 32-16. Bonjour David.
Oui, allô, bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. On est en Isère, c'est ça David?
Oui, tout à fait.
Vous voulez nous parler des départs, des retours de ce week-end? Il y aura beaucoup de monde sur la route parce que vous êtes patrouilleur autoroute.
Oui, tout à fait. Et donc là, toute la semaine, je suis de 13h jusqu'à 20h. Et hier, on a eu quelque chose comme 9 véhicules en panne, donc pneus éclatés. Donc pensez bien à gonfler vos pneus.
C'est lié, lié directement à la chaleur.
Ah oui, nous on a mesuré 77 degrés goudron. Donc je vous dis pas le goudron fond, c'est catastrophique. Et dans les camions, en roulant, on arrive à monter à 44-45 degrés.
Dans les camions ?
Dans les camions.
Vous avez pas la clim dans les camions des patrouilleurs ?
Mais nous, le problème, c'est qu'on a la clim devant et on a des portes coulissantes derrière.
Ah ouais.
Et donc, on est obligé de les laisser ouvertes pour intervenir et pour faire un peu de ventilation. Quoi, parce que ça suffit pas, parce que les camions sont assez conséquents. Mais je voulais dire aussi, surtout, quand les personnes tombent en panne, pensez à prendre de l'eau quand vous partez en vacances.
Parce que souvent, vous retrouvez avec des personnes en panne qui sont démunies, qui n'ont même pas d'eau pour se...
Complètement. Bon, comme hier, on a une famille de 5 personnes, donc avec 3 enfants. Heureusement que nous, on a de l'eau fraîche, on a une réserve d'eau dans le véhicule pour leur donner de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas du tout de l'eau. En plein soleil, c'est juste invivable. Les enfants étaient dans un état mais catastrophique.
Avec face à ces chaleurs extrêmes, et notamment en raison d'une panne éventuelle, c'est bien aussi, parce que ça ne coûte pas si cher que ça, ça ne coûte pas très cher, c'est d'emporter une ou deux couvertures de survie, ça peut aider ça aussi?
Non.
Non
parce que la chaleur vient du sol. Donc la chaleur vient du sol, ça sert strictement à rien.
Merci David. Merci d'avoir été avec nous, David, patrouilleur autoroute sur la 49, et bon courage à vous, parce que ça aussi il faut les signer. Ils font pas un boulot évident. David qui est avec nous au 32-16. Allez, dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Il fait chaud, on aimerait bien aller à la piscine, mais le problème c'est que les piscines municipales, elles sont fermées pour travaux, en tout cas un certain nombre d'entre elles. À tout de suite sur RMC, sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC 8h44. Il fait chaud, très chaud, tout le temps. La France subit depuis le 28 juillet sa troisième vague de chaleur de l'été, partie pour être l'une des plus longues jamais enregistrées dans le pays. Alors l'affluence dans les piscines municipales, rare lieu de fraîcheur, augmente fortement. Pourtant, à Paris, sur 42 piscines que compte la capitale, 11 sont fermées cet été pour des travaux de rénovation ou de maintenance. Un phénomène qui n'est pas isolé à l'échelle du pays, Charlotte Gaillard.
Depuis début juillet, les habitants du 20e arrondissement de Paris déchantent. Impossible de nager dans la piscine Alfred Nakache, fermée pour cause de travaux. Victorien est en colère de ne plus avoir accès à ce service en cette période de canicule.
C'est la seule manière, en fait, dans l'absolu, de se rafraîchir à Paris, mis à part les quelques cafés qui sont climatisés. Dans l'absolu, si le week-end on ne veut pas mourir dans son appart, il faut aller à la piscine, il n'y a pas 3000 moyens, quoi.
Mohamed, qui vit juste à côté, regrette que les enfants ne puissent pas se baigner.
Moi, j'ai 3 filles qui sont au salon. Ils savent même pas où aller. Il fait tellement chaud avec un ventilateur. C'est franchement assez compliqué.
Et certains, comme Solène, abandonnent tout simplement l'idée d'aller à la piscine.
Voilà où on peut au final. Hein. J'essaye d'aller en dehors de Paris, trouver des petits coins où il y a un peu d'eau et tout, ou même genre les bases de loisirs.
La piscine Alfred Nakache, mais aussi une dizaine d'autres sont fermées tout l'été à Paris et partout en France, des bassins ferment tour à tour pendant cette période estivale, parfois par manque de maîtres nageurs, comme dans le Morbihan, ou pour des raisons sanitaires, comme dans les Pyrénées-Atlantiques, où une bactérie a été découverte lundi dans l'un des bassins de la piscine d'Oloron-Sainte-Marie. Probablement apporté par un baigneur, selon Audrey Bergeret, responsable du pôle technique de la communauté de communes.
Parce que plus de fréquentation, donc plus de risque d'avoir une autre bactérie, une eau plus chaude, un chlore qui s'évapore avec l'effet de la chaleur. Et donc tout ça crée en fait un milieu idéal pour avoir une telle situation.
Derrière ces fermetures, c'est aussi le vieillissement du parc aquatique qui est pointé du doigt. Sur les 6000 bassins français, une bonne partie a plus de 50 ans. Or, leur durée de vie est estimée entre 30 et 40. Ils sont donc vétustes, comme le détaille Axel Lamotte, porte-parole de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs.
L'évaporation, l'eau est un corrosif terrible et donc c'est vrai que les piscines s'usent, même si elles sont entretenues. Et du coup, on arrive sur un parc un petit peu en partie vieillissant.
Pour faire face à ce problème, selon lui, il faut des équipements neufs.
Les réhabilitations, parfois, sont moins coûteuses, mais aussi moins durables. Il y a des nouvelles piscines avec des coûts d'exploitation qui sont moindres. Quand les circuits sont modernes, eh bien, ils sont plus performants et donc moins consommateurs d'énergie.
Selon la fédération, il faudrait donc construire aujourd'hui plusieurs centaines de piscines de proximité.
RMC 8h46, c'est une sécheresse historique. Les agriculteurs se disent, pour beaucoup d'entre eux, au bord du gouffre. Le gouvernement promet un plan d'aide massif. La FNSEA réclame des milliards d'euros d'aide. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, est mon invité dans un instant sur RMC et sur RMC Story. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 8h48, c'est une sécheresse comme la France n'en a jamais connue et le monde agricole désespère. Bonjour Annie Genevard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RMC, RMC Story. Vous êtes la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire. Annie Genevard, 98 départements sont actuellement touchés par la sécheresse. 57 sont en situation de crise. 95% du territoire est concerné. C'est du jamais vu. Conséquence, la récolte de maïs, c'est un exemple, s'effondre de 35%. C'est au plus bas depuis 1980. Les deux tiers des nappes phréatiques sont sous les normales. La colère monte dans les campagnes. Le gouvernement promet un plan d'aide massif. Annie Genevard, la FNSEA chiffre déjà le besoin en aide à plusieurs milliards d'euros. Combien êtes-vous prêt à débloquer pour aider les agriculteurs ?
D'abord, il faut savoir exactement l'ampleur chiffrée des pertes avant d'annoncer des mesures. Je ne peux pas, moi, en responsabilité, être dans l'approximation. C'est l'objet de la réunion que j'ai convoquée le 27 août prochain avec l'ensemble des préfets qui doivent me faire une remontée précise des pertes de récolte. Nous avons évidemment des premiers éléments, mais pas encore un tableau d'ensemble. Toutes les récoltes n'ont pas encore eu lieu et il se peut qu'il pleuve, nous l'espérons tous, d'ici la fin du mois. Mais d'ores et déjà, on sait que les pertes sont extrêmement importantes. C'est une sécheresse et une canicule. Ce sont deux phénomènes météorologiques cumulés qui ont des effets dévastateurs sur notre agriculture. Vous avez cité quelques chiffres, on est inquiet aussi pour le fourrage, l'alimentation des animaux. Vous avez évoqué le maïs, mais on peut évoquer aussi le maraîchage de plein champ. Les pertes sont très importantes, donc évidemment l'État sera là dans son rôle de solidarité nationale. Et dès lors que nous aurons finalisé ce tableau, je pourrai donner des chiffres un peu plus précis.
Annie Genevard, je l'entends, c'est normal, vous devez d'abord évaluer le montant des dégâts. Malgré tout, la FNSEA, elle dit, par exemple, pour le fourrage, vous l'évoquiez à l'instant, la nourriture pour les bêtes, elle le chiffre déjà à 1 milliard d'euros, rien que pour le fourrage. Ce sont des sommes colossales.
Alors, nous verrons cela. Nous n'avons pas encore ces éléments qui nous permettent d'établir de chiffrages précis. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que vivent nos agriculteurs en ce moment implique une solidarité nationale. J'ai vu, et je les en remercie, que certaines collectivités territoriales avaient commencé à déployer des aides. Les assureurs seront au rendez-vous. La grande distribution doit aussi jouer sa partie. Donc c'est un grand effort de solidarité nationale duquel les Français ne seront pas exclus dans leur acte d'achat. Je les invite à acheter français des produits agricoles français.
Mais les prix vont augmenter, vous le savez.
Bien sûr, l'État sera là et si vous le permettez, je détaillerai un peu les choses. Alors les prix ont augmenté, moi je veux tout de suite rassurer, mettre fin. Non, pas nécessairement, je voudrais mettre fin à une petite musique qui monte. Il n'y a pas de hausse de prix général dans les rayons. À part peut-être sur quelques produits comme la salade en sachet, par exemple. Mais
l'interprofessionnel fruits et légumes estime que la hausse des prix sera de 5 à 30%.
Alors, sera, on nous verrons bien. Oui. Mais là, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord, le prix payé aux producteurs ne sera pas nécessairement répercuté par la grande distribution. Il y a peut-être aussi un effort à faire par chacun. Donc, ne soyons pas alarmistes, parce que sinon, les Français vont se détourner des produits agricoles de notre pays. Et vous savez, un pays qui abandonne ses agriculteurs, il abandonne l'espoir de se nourrir par lui-même. Donc, il faut être extrêmement prudent. C'est dans l'intérêt de tous. Il faudra accepter des calibres de fruits un peu différents. Il faut que la grande distribution regarde quand un agriculteur demande une revalorisation de ses prix. Il faut accepter de privilégier l'origine France à chaque fois que c'est possible. Voilà. On a un effort de solidarité nationale à faire auprès de nos agriculteurs. Et c'est le sens du plan d'urgence massif que je vais déployer. Parce que on ne peut pas laisser les agriculteurs seuls dans cette épreuve terrible. Et donc, ça,
on l'entend, Annie Genevard. Mais malgré tout, Annie Genevard, vous le savez, tout le monde le sait aujourd'hui, le dérèglement climatique, il est là. Il même semble s'accélérer. Les épisodes de canicule, de sécheresse, d'inondation, de chute de grêle, de tempête, ils vont se multiplier. Jusqu'à quand l'État pourra aider le monde agricole? Est-ce que c'est pas un puits sans fond? Est-ce qu'il faut pas tout simplement changer notre modèle? Et investir dans ce sens?
Il ne le faut pas, en effet, mais on ne peut pas ne pas être aux côtés des agriculteurs par des aides d'urgence. C'est pourquoi je vais, dans les jours qui viennent, annoncer un plan, un volume d'aide qui sera à la main des préfets dans chaque département pour aider les agriculteurs qui ont des difficultés majeures de trésorerie, pour leur permettre de remettre en production, parce que c'est très important de travailler à la prochaine campagne. Je vais faire évidemment doter, armer puissamment l'indemnité de solidarité nationale pour tous ceux qui ne peuvent pas être assurés par les dispositifs classiques. Nous réfléchissons à un prêt sécheresse pour pouvoir faire la jonction avec les prochaines productions. Et puis, lors du prochain budget, nous aurons probablement des propositions à faire en matière de nouvelles mesures fiscales. Mais au-delà de ça, et vous avez raison, il faut travailler l'avenir, mais on n'a pas attendu cette crise majeure pour le faire. Moi, je travaille inlassablement à la transition. La transition, c'est permettre aux agriculteurs d'accéder à l'eau. C'est le sens de la loi d'urgence, c'est le fonds hydraulique.
Et il faudra aider les agriculteurs à investir pour changer de modèle, ça c'est
bien
certain.
Bien sûr. C'est l'objet des contrats d'avenir de souveraineté alimentaire que je mets en place à la rentrée. Évidemment qu'il faut parler d'avenir.
Merci Annie Genevard d'avoir été avec nous ce matin sur RMC, RMC Story. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, RMC 8h55. Et il est temps de passer la main aux grandes gueules en direct de 9h à midi sur RMC et RMC Story. Alain Marchal, salut Alain.
Bonjour à tous. Dans un instant, les GG avec Abel Boyi, l'éducateur, Emmanuel de Villiers, l'entrepreneur, et puis nous serons avec notre prof de français, Fatima Hidbounois. Les mineurs impliqués dans les incendies, est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de défi sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un problème de fantasme aujourd'hui de violence et de feu chez ces mineurs? On essaiera de comprendre ce qui se passe dans leur tête. On regardera aussi la carte de France des restrictions d'eau. Est-ce qu'on va manquer d'eau potable? On en parlera avec vous, bien sûr, au 32-16. On s'intéressera aussi aux locations touristique Airbnb avec le témoignage d'un gestionnaire de biens. Vous savez pourquoi? Il a découvert à travers les gestions de biens les réseaux de prostitution alors qu'il pensait louer des meublés touristiques. Allez, restez avec les GG.
Les GG tout de suite sur RMC, RMC Story, et bon week-end à tous.